Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un débat d'octet plus ou moins spécial que vous allez écouter puisqu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous autour de cette table virtuelle et qui vous concerne aussi un peu, amis auditeurs, je veux parler du podcasting. Le podcasting est en train de changer énormément ces derniers temps et je ne pense pas qu'il soit inutile de faire un point sur sa situation. Alors quel avenir pour le podcast? Quelle piste prendre? On va aborder tout ça. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, parce que oui c'est les MEB qui anime, hein, Phil est en déménagement. Mais je sais qu'il écoute. On a 5 invités podcasteurs. Le premier, c'est celui qui anime le PCC et la chaîne guitare. Il traîne dans le milieu depuis... Oula, au moins. Pierre Journel, bonjour.
Bonjour. Comment est-ce que ça va bien?
Très très bien. Tu es en direct de... On peut citer la ville où tu es?
Ah oui, on peut citer. Ça n'a rien de confidentiel. Je suis en déplacement professionnel à Lyon. D'accord. Et normalement, donc, basé sur Paris.
Le deuxième, c'est une autre très très grosse pointure, puisqu'il anime Déclencheur, le podcast sur la photographie. Il vient aussi de lancer une version payante de ses podcasts, on en reparlera plus tard dans l'émission. Benoît Marchal, bonjour.
Salut, bonne soirée.
Ensuite, c'est un podcasteur plus ou moins à la retraite qui est avec nous. Alors ça, pour être un vieux de la vieille, il en est. Il a animé Pomcast, et en théorie, il devrait toujours l'animer pendant 4 ans. C'est Stuff, salut à toi.
J'aime bien la théorie, salut.
Oui, c'est en théorie, ouais.
Je ne suis pas encore mort.
Ah bon? Ensuite, ce n'est pas un podcasteur, mais le podcasteur, puisque c'est l'ex-rockstar qui fait son comeback, c'est Bertrand Lenôtre, bonjour.
Salut tout le monde.
Et enfin, c'est un honneur de l'avoir dans l'émission, c'est le co-présentateur de Zapcast, le podcast sur les podcasts, c'est aussi le cofondateur de NoWatch TV, un site de regroupement de podcasts vidéo. Autant dire qu'il est concerné par le sujet, c'est Christophe Ponsol, bonjour.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, comme j'ai dit juste avant, le podcast est en train de changer très rapidement et Pierre Journel et Benoît Marchal ne me diront pas le contraire. La situation a pas mal changé depuis quelques années, voire quelques mois en fait, puisque par exemple des podcasts sont apparus et ont connu un succès très très fort. MacJT, qui est devenu We Love MacJT, qui est maintenant devenu la Revue Tech, donc l'émission produite par Mathieu Blanco, est probablement l'exemple plus flagrant de succès. Les podcasts indépendants ont aussi connu un succès fulgurant, en fait le podcast en général en a connu un. D'ailleurs, il était tellement fort que Médiamétrie, la société qui compte les audiences de différents médias, s'intéresse de très près au podcast maintenant. Mais certains disent que le climat s'est un peu tendu depuis un certain temps. Et là, maintenant, je me tourne vers tout le monde. Est-ce que vous trouvez que la situation actuelle du podcasting est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle est plutôt bonne? Est-ce qu'elle est plutôt mauvaise? Ou est-ce qu'elle est plutôt mi-figue, mi-raisin?
Plutôt bonne au jour d'aujourd'hui, oui. Il y a plein de choses qui émergent, il y a plein de voies encore à explorer. C'est un média tout neuf et je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance, en tout cas entre les podcasteurs que je connais, il y a plutôt une bonne ambiance d'échange de bons procédés, d'échange de tuyaux sur telle ou telle technique oui, moi je trouve que la situation est plutôt encourageante, oui.
Donc tu penses que le podcast évite plutôt ce phénomène qui s'est beaucoup passé dans le blog ces dernières années, ces derniers mois, c'est-à-dire tous les blogueurs prennent la grosse tête et se cassent la gueule par article interposé?
Pour une raison évidente qui est que pour l'instant il n'y a pratiquement pas d'argent qui circule dans le podcasting.
On y reviendra justement, c'est très intéressant, on y reviendra après.
Je pense qu'à partir du moment où il va y avoir arrivée de capitaux dans le podcast, et ça va arriver de toute façon, ça c'est inévitable, il y aura forcément concurrence entre différents podcasteurs. Ce qu'on voit actuellement avec les billets sponsorisés sur les blogs.
Donc tu penses que le fait que le podcast reste gratuit, c'est le entre guillemets la recette pour que le podcast reste bien?
Alors après je pense pas qu'il faille vouloir ou espérer que le podcast reste sans argent. Parce que de toute façon, il est bien évident qu'à un moment, il va falloir quand même que des capitaux arrivent un petit peu pour que pour qu'on continue à trouver de l'intérêt quand même à faire du podcast. Parce que le podcast, ça prend énormément de temps. Ça demande un investissement, quoi qu'on en dise. Et il faut de toute façon un minimum d'argent pour faire tourner la boutique. Maintenant, est-ce que le gâteau sera assez grand pour que tout le monde puisse manger à sa faim ? Ça, c'est la grande question.
On y reviendra dans la troisième partie, puisque justement, on va aborder le sujet des capitaux dans le podcasting.
On est parti depuis un moment, tu sais d'où.
On y est. Stuff, tu voulais dire quelque chose ?
Non, même pas.
Non, même pas. On t'entend pas très fort, Stuff. Quelqu'un a un autre avis sur la situation actuelle du podcasting et qui trouve que le podcasting, en gros, c'est pas vraiment la joie. Ou tout le monde trouve que c'est les bisounours.
Je sais pas, répondez plus vous, parce que moi, sur beaucoup de points, je me sens un peu hors débat, en fait.
Donc, mais c'est vrai que toi, tu podcastes plus vraiment.
Ouais, je suis un peu en dehors du circuit, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Mais sur la situation actuelle, ce serait un peu abusé de ma part de me prononcer.
Bertrand.
En fait, je redébarque moi dans le podcasting parce que j'ai vraiment pris ma retraite. Là, j'étais rangé des camions de l'histoire depuis 2-3 ans. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas du tout intéressé à ce qui se passait pour podcasteurs depuis au moins 2-3 ans, même si j'avais des contact à droite à gauche avec certains, et j'ai pas le sentiment que la situation est très différente de celle que j'ai quittée moi il y a 3 ans. Vraiment,
c'est toujours bisounours.
Non, il y avait des podcasteurs qui s'entendaient bien, il y en avait d'autres qui s'engueulaient, il y avait des clashs en permanence, il y avait toujours la discussion, on en parlait Christophe tout à l'heure, de savoir quand est-ce que l'argent allait arriver. Ça, c'était pas il y a 3 ans, c'était il y a 5 déjà.
Il y a 5 ans, ouais.
Pour savoir si ce monde-là allait générer des professionnels qui allaient pouvoir gagner leur croûte avec ça. Donc en fait, les situations n'ont pas tellement changé. Moi, il y a 3 ans, quand je regardais...
Est-ce que ce qui a changé, c'est l'audience ?
L'audience apparemment a explosé pour certains podcasts indépendants, j'ai l'impression. Et puis pour les podcasts en général, hein, parce qu'avec le...
Ah ben merde, faut que je revienne.
Oui, non, absolument. C'est vrai qu'avec les classements maintenant, la catch-up radio classée par Médiamétrie, on s'aperçoit que c'est plutôt les radios traditionnelles qui sont classés là, mais on s'aperçoit qu'il y a des audiences qui sont vraiment importantes maintenant, mais on s'aperçoit aussi de ce qui se passait il y a 5 ans et qu'on craignait vraiment, c'est-à-dire que le podcast devienne quelque chose qui soit un peu dirigé par les grosses radios traditionnelles, les médias traditionnels. C'est quand même assez globalement ce qui se passe, hein. Moi, si je regarde les 3 premiers podcasts, on a Gérard, Canteloup et Guillon qui sont en tête du podcasting en France, tout podcast confondu, indépendant et médias traditionnels. Donc c'est pas très très nouveau.
Benoît,
je disais une chose qui me frappe quand on compare par rapport par exemple au marché nord-américain, et là je rejoins ce que Bertrand disait à l'instant, c'est qu'on n'a pas vu chez nous vraiment l'émergence en général quand il y a un nouveau moyen de distribution d'informations qui naît, derrière il y a quelques nouveaux titres qui apparaissent, et on l'a vu aux États-Unis avec Tweet là, mais pas le Twitter
WIT, mais ça fait une audience de fou aussi. Là tu parles.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a vu là, sur ce marché-là, on a vu des nouveaux médias naître et des nouveaux magazines naître et s'installer. C'est vrai que c'est pas un phénomène qu'on a vu.
Ouais, mais après, Léo Laporte, il débarque pas. Tu vois, c'est pas ce que il y a 5 ans.
Mais
tu vois.
Il a su se réinventer quand même. Il a su partir de podcasts qui étaient des podcasts qu'on entend en France, audio, avec pas mal de monde, comme ça, on discute. Donc ça ressemble un peu à ce que fait Béja, d'ailleurs, qui s'inspire pas mal de Léo Laporte. Ouais. Mais il a su se réinventer en faisant de la télévision, en utilisant toutes les capacités du live aujourd'hui en vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui s'est pas vraiment passé en France. Il n'y a pas d'équivalent de Léo Laporte en France aujourd'hui.
Le truc avec Léo Laporte,
pour l'instant.
Je trouve qu'il y a aussi, c'est un truc aussi qui a fait aussi entre autres ta force à toi, Bertrand, c'est que vous venez du monde de la radio avant, entre guillemets. Lui aussi a fait des trucs en télé. Si tu prends un mec comme Chris Pirillo, il a aussi fait des trucs en télé aussi. Et c'est des mecs qui sont au milieu, quoi, qui sont au croisement du net et du traditionnel. Donc ils arrivent à comprendre un peu les deux. Et c'est c'est ça qui dans ces conditions-là, font, je trouve, que certaines personnes ont certaines facilités d'être au milieu des deux mondes, parce que je pense que une des erreurs qu'on a fait beaucoup il y a quelques années dans le casting, c'était de croire qu'on allait s'en sortir tout seul, qu'on allait être très souvent, probablement moi le premier, même si j'avais fait de la radio aussi avant, on a cru qu'on allait être meilleur que les radios, alors que c'était juste pas possible, quoi. C'était David contre Goliath, quoi.
Et mine de rien, c'est une émission avec Léo. Il a fait une journée spéciale photo et on a fait une émission autour de ça. Enfin, c'était pas Léo qui l'animait ce jour-là. Il y a une mécanique, il y a une organisation derrière qui est pas équivalente à ce que tu vas trouver dans une qui est proche de ce que tu vas trouver dans une petite radio régionale, par exemple. Je veux dire, il a vraiment une t'es pas au niveau d'une radio nationale, mais il a l'équipe et l'infrastructure derrière.
Est-ce que faut quand même distinguer, il y a bien sûr il y a deux mondes, et iTunes est quand même un petit peu responsable aussi du fait qu'il y ait confusion des genres, c'est-à-dire que quand tu arrives sur la page de d'iTunes sur les podcasts, tout est mélangé, c'est-à-dire que tu as France Inter, Radio France et consorts qui sont mélangés avec des gens comme nous qui font du podcast au fond de leur salon. Et le problème, si tu veux, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour, parce qu'évidemment, on n'a pas les mêmes moyens techniques, on n'a pas la même force de diffusion, de relais de l'information pour dire il y a un podcast, venez nous écouter. Donc c'est un petit peu mélangé tout ça.
Mais les moyens techniques, c'est tout le monde. Les moyens techniques, c'est un peu, je t'interromps deux secondes, c'est un peu une excuse que j'ai souvent entendue, que je trouve, et je sais pas pour t'attaquer toi personnellement, mais c'est pour utiliser le fait que beaucoup de gens parlent des moyens techniques. C'est, je pense que c'est beaucoup, pour beaucoup de cas, pour 90% des podcasteurs, c'est qu'ils veulent pas se donner les moyens techniques, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'avec le micro interne de leur ordinateur portable, ça va le faire, quoi. Alors que non, ça va juste pas le faire. Une des raisons pour lesquelles certains podcasts...
Ça dépend pour qui, en fait, hein. Je pense qu'elle est plutôt pas terrible, parce qu'elle a pas tellement évolué depuis 4-5 ans. Il y a 4-5 ans, on est quelques doux rêveurs à penser que le podcasting allait prendre tout en raz-de-marée. Ça s'est pas vraiment produit.
On allait tous les niquer.
Voilà, c'est ça. Bon, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est les médias traditionnels qui ont débarqué sur le podcasting et qui nous ont piqué le podcast. Bon, ça, c'est le point de vue un petit peu cynique. Un point de vue qui est beaucoup plus positif et qui est le mien et que je partage, hein, c'est que quand on monte un podcast sur un sujet très pointu, Benoît en sait quelque chose puisqu'on a longuement débattu sur le sujet, c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Si je termine rapidement sur ce sujet, bon, moi ça fait 5 ans que je fais du podcast avec le PCC, et ça fait presque un an là que je fais un podcast dédié à la guitare avec la chaîne guitare. J'ai plus d'auditeurs maintenant avec la chaîne guitare, j'en ai eu plus avec la chaîne guitare en 6 mois qu'avec le PCC en 5 ans. Donc c'est un peu la preuve.
Ouais, faut trouver le bon truc, quoi.
Est-ce que ce qui a changé ces dernières années, c'est pas la vision qu'on a du podcasting? Par exemple, Mathieu Blanco, qui aujourd'hui est devenu chroniqueur à Radio France et rédacteur dans le magazine Compétences Mac. Est-ce que c'est pas ça qui a changé?
Ouais, mais bon, après, je suis pas là pour lui dorer la tartine et je le connais pas en plus, mais du peu que j'ai entendu, il a quand même beaucoup de talent, donc je veux dire, ça aide.
Oui, non, je sais, j'ai jamais dit le contraire.
Donc voilà, il y a quand même, il y a pas que le fait de choisir un bon thème aussi, il y a aussi le fait d'avoir une belle voix, une voix pas mal, ce qu'il a déjà, ça aide. De préparer son contenu. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, entre autres avec Christophe, sur Wheel of Mac et tout ça, je veux dire, c'était à chaque fois du solide, quoi. C'était du pro, quoi. Et puis c'était des perfectionnistes dans lui, Christophe, donc.
Et c'est
donc
ça,
c'est faisable. Ouais, ouais.
Effectivement, au départ, il faut un bon sujet, un sujet qui intéresse un certain nombre de personnes. Et puis après, il faut le faire correctement. Et il faut, là, je te rejoins, Christophe, il faut se donner un minimum de moyens. Pour que le résultat soit à la hauteur de tes attentes et des attentes des gens qui t'écoutent ou qui te regardent.
Bah, le truc, c'est si c'est pour le faire à moitié, bah faut pas le faire, quoi.
faut pas le faire. Exactement. Comme dans toute chose dans laquelle tu te lances, il faut un minimum d'implication.
Je me suis souvent fait tanner à l'époque de Pomcast parce que je tapais sur la tête de ceux qui faisaient Pomcast avec moi et il y avait plein de gens qui me disaient « Mais attends, t'exagères, ils sont pas payés, tu peux pas les disputer. » Et ce que je disais, c'est que non, parce que si c'est pour venir et pour faire un truc en se disant « Ouais, mais attends, non, je suis pas payé, je fais ça de manière volontaire, donc je vais le faire plus ou moins. » Bah non, faut pas le faire en fait. On va gagner du temps, quoi.
Je suis assez d'accord avec ça.
Parce que, ouais, si tu te donnes pas les moyens d'avoir un produit, en fonction de tes ambitions, hein, c'est toujours le même truc. Si ton ambition c'est d'avoir un podcast écouté par 30 personnes ou 50 ou 100, tu peux rester avec ton micro interne et ton truc où tu enregistres au début et tu appuies sur record, enfin sur stop à la fin, c'est tout. Maintenant, si tu veux aller un peu plus dans la direction 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ou 400000 comme Léo, mais là je pense que c'est un peu compliqué.
Après, il faut ramener à l'échelle du pays aussi, hein.
Ouais, non, c'est sûr, là c'est 400000 entre autres parce que c'est les États-Unis. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fera 400000 le jour. Ouais, même aux États-Unis, 400000 c'est du gros, hein, c'est du lourd.
Oui.
Même aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, 10, 20, 30, 40000 ça va, mais ouais, après tu tombes dans des autres chiffres. C'est des chiffres. C'est pas des chiffres de podcast, ça, 400000, hein, c'est... on est d'accord. Mais après, on a souvent qualifié le podcast de microcasting, et je pense que c'est aussi ce que certains d'entre vous ont dit déjà, c'est-à-dire que le podcast est très souvent est très souvent ciblé sur un sujet qui n'intéresse pas les grands médias parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Si tu prends l'exemple de Pomcast, c'est pas demain que tu vas avoir une émission sur TF1 au sujet de la communauté Mac, hein. Bon, déjà parce qu'il y a le problème de la marque Apple entre autres, mais aussi parce que ça représente pas assez d'audience, quoi. Tandis que pour un podcast, c'est bien.
Moi, si je peux me permettre de dire un truc, il me semble qu'il y a beaucoup beaucoup de monde sur les mêmes secteurs, sur les mêmes thématiques. Et ça, c'était le cas il y a 5 ans. On parlait beaucoup de web, de nouvelles techno, de gadgets. Alors, ça peut être, en général, ça peut être de l'audio ou de la photo, mais en tout cas, c'était du matos. Donc, beaucoup de gens qui sont assez branchés techniques et puis des gens qui sont assez branchés musique. Il y a ces deux sujets-là qui sont assez forts. Et finalement, au bout du compte, il y a énormément de sujets qui sont absolument pas traités. Moi, j'ai cherché, j'ai même pensé faire un podcast sur le foot en me disant il y a une Coupe du Monde de foot cette année. Il n'y a absolument rien en matière de podcast sur le foot et il n'existe rien. C'est quand même le sport numéro un en France. Il n'y a pas un Gugus quelque part passionné de foot qui se soit dit tiens, je vais prendre un micro et je vais essayer de faire quelque chose un petit peu différent de ce qui se fait sur les autres médias. Il n'y a pas un journaliste qui s'est dit je vais prendre un micro et je vais faire un journal quotidien du foot en audio, voire même avec un petit peu de vidéo, mais ce ne serait pas des vidéos de foot, mais de lui. Bref, il y a plein de secteurs entiers qui ne sont absolument pas exploités aujourd'hui, ce qui explique que les médias traditionnels aient la part belle dans cette affaire-là.
Mais le foot, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sens de faire quelque chose sur le foot, excuse-moi. Enfin, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas.
Je sais pas, moi je trouve ça.
Il y a plein d'émissions radio sur le foot. Il y a plein d'émissions.
Mais j'ai jamais abordé le sujet de la façon que ce podcast va l'aborder.
Bah, figurez-vous que les émissions radio sur le foot sont exactement de la même typologie que les émissions technologiques sur les podcasts. C'est-à-dire, on prend 3-4 personnes, des gens, et on parle, et il y a beaucoup de private jokes, et on discute, et ça dure une heure et demie. Et ça, on l'entend sur RMC, sur Europe 1, partout.
Mais justement, revenons sur ce problème de diversification. Comment est-ce que vous expliquez que la plupart des podcasts indépendants qui existent aujourd'hui parlent de technologie et qu'il n'y ait pas justement de podcasts sur le foot comme en parlait Bertrand? Christophe?
Ben, je pense que un début d'explication à ça, c'est que actuellement, pour connaître le podcast et pour s'y abonner et tout ça, il faut quand même être un peu technophile. Tu prends n'importe quelle personne dans la rue, tu lui demandes qu'est-ce que c'est qu'un podcast, les gens ne savent pas vraiment. Parce que c'est vrai que c'est pas super facile. Nous, on voit ça avec nos yeux parce que on est connecté 20 heures par jour. Mais pour une personne lambda, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir qu'il faut aller sur iTunes pour s'abonner à un flux RSS et compagnie. Donc voilà, forcément, on va chercher aussi, on va faire des sujets en fonction des gens qu'on sait qui vont pouvoir nous écouter. Mais si demain il y a une box qui sort et qui permet d'agréger des flux RSS comme ça aussi facilement que comme tu changes de chaîne sur ta télé, on va voir une diversification des sujets. C'est à mon sens, c'est évident.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un des problèmes qui viendrait de la personnalité des podcasteurs? On dit que souvent, pour faire du podcast, il faut avoir un ego surdimensionné. Est-ce que...
Pourquoi il se marre, lui?
Est-ce que aujourd'hui les chevilles sont trop grosses?
Oh, mais n'importe quoi!
Tu poses la question aux mauvaises personnes. Hein.
Ouais, oui, bah oui, je sais très bien. Je sais très bien que vous allez me répondre non. C'est pour ça.
Dans le casque, tu vois. Non, mais si tu, a priori, si tu t'aimes pas, tu fais pas de podcasting, hein. Bon, on est d'accord. Hein. Quelque part, souvent, c'est que entre autres, on aime bien s'entendre. Donc.
T'aimes bien t'entendre, quoi. Bah. Sans rire maintenant, c'est vraiment un truc.
T'aimes pas toi?
Non, j'aime pas m'entendre. J'aime pas ma voix. J'aime pas m'entendre.
Bah, il faut faire du podcast vidéo sans audio. Bah, vous me dites si je me trompe, mais je pense que la grosse majorité des podcasteurs ont un minimum d'ego, quoi, parce que sinon.
Sinon, ils tiennent pas.
Si on n'aime pas au minimum ce qu'on fait.
Ça, c'est pas avoir de l'ego, ça, c'est être passionné. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'ego.
Être passionné par soi-même.
Je crois pas que ça ait à voir avec une question d'ego. C'est juste une question de. Si tu as des choses intéressantes à dire, de les diffuser à d'autres personnes qui te font un retour, et voilà quoi. Je crois pas que ça soit une question d'ego. Hein. C'est pas.
Mais est-ce que à cause de enfin vous dites c'est normal, il faut un ego, enfin il faut avoir un certain ego, mais est-ce que aujourd'hui il y a un problème de plus ou moins de désunification des podcasts dû à certains mecs qui prennent trop la grosse tête?
Bah, il n'y a jamais eu d'unification des podcasts, il peut pas y avoir de désunification, hein.
Non mais je veux dire est-ce que les podcasts se tirent trop sur la gueule?
Écoute,
il y avait quand même une espèce de communauté, tu vois, je pense à cette linguiste.
Je vais faire un peu de pub pour ma paroisse, mais No Watch est le contre-exemple de ce que tu viens de dire. On est en train de se fédérer à plusieurs podcasts audio et vidéo et,
ouais,
et
mais
voilà.
Vous, votre but, c'est quoi? C'est de rassembler tous les podcasteurs? Non. Ou de faire seulement des partenariats avec certains podcasts?
Non, c'est certainement pas de rassembler tous les podcasts. C'est de rassembler des podcasts de qualité qui ont une ligne éditoriale commune, qui, avec des podcasteurs qui pensent la même chose de ce qu'ils font et de la façon dont ils le font.
Pierre, tu voulais dire quelque chose?
C'est juste l'unification. Est-ce qu'on demande à France Inter de s'assembler avec Europe 1, de s'assembler avec RMC, de s'assembler avec TF1, donc je vois pas pourquoi on demanderait la même chose au podcast. Le problème du podcast, c'est plus le manque de visibilité qu'à l'intérieur d'iTunes, il n'y a pas de mélange, enfin il n'y a pas de
ségrégation
podcast institutionnel versus indépendant, quoi.
Après, faut arrêter tout le temps penser que iTunes va être là pour t'aider. C'est comme ça me fait exactement penser au mec qui développe une application iPhone. Et hein, bon, je parle parce que je suis dedans. Sauf que moi, je le fais pour des clients, donc le marketing, c'est pas mon problème. En tout cas, pas encore. J'espère que ça le sera un C4. Et les mecs, ils dropent leur app sur l'App Store. Et puis, ils pensent que du jour au lendemain, ils vont être millionnaires parce qu'elle va être dans une liste quelconque perdue au fin fond de la planète. Sur iTunes, c'est la même chose. Si tu as la chance d'avoir à un moment donné ton podcast qui est dans une petite vignette, soit parce que Apple t'aime bien, soit parce que tu connais quelqu'un par hasard au fond d'un couloir qui connaît quelqu'un, parce que des fois c'est un peu comme ça que ça marche.
Oui, mais chut.
Il faut que tu le fasses, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles mettre des bannières aux bons endroits, il faut que tu éventuellement, si tu as les moyens, fasses soit du vrai marketing, soit du marketing de bric-à-brac en faisant du copinage par-ci par-là, et arrêter de penser que...
Ouais, non, mais là je suis pas d'accord, parce qu'on compare des choses qui sont pas comparables. C'est comme si moi je disais que c'est comme si le petit développeur iPhone il se comparait à Microsoft, c'est pas pareil.
Moi je dis c'est exactement le même concept, c'est du méritocratie, quoi, c'est-à-dire que si t'es très bon, t'as des chances d'y arriver. Bon, peut-être pas de la même façon, mais en tout, c'est-à-dire que ce sera plus difficile pour un podcast, mais sur l'iTunes Store, et on va sortir du sujet très vite parce que c'est pas le débat, il y a des tas de mecs qui sont des développeurs indépendants tout seuls, qui sont arrivés à être aussi importants que des grosses boîtes, parce qu'ils ont fait des trucs mortels, quoi. Et donc voilà, après.
Mais donc c'est ça faut. Pour moi l'équivalent de ce que tu dis, c'est la même chose par rapport au podcasting. Si tu es sur le podcast, c'est un média idéal pour des sujets de niche, voire de micro-niche, quoi.
Ah ouais.
Je vais dorer la pilule à Benoît, mais est-ce qu'il a réussi par rapport à Déclencheur? C'est la preuve même que, à mon avis, le seul espace qui reste, qui est disponible au podcast, parce qu'il ne peut pas être utilisé, enfin, occupé par d'autres médias, c'est justement les sujets très pointus comme ça.
Bah, entre autres, c'est aussi pour ça
que... Tout seul après, enfin tout seul, non, il ne se trouve pas tout seul, excuse-moi Benoît là, mais il y a un cercle vertueux qui s'enclenche, quoi.
Mais un truc qui me paraît, enfin, dans la lignée de ce que tu dis, moi je n'ai pas trop l'impression qu'on se tire spécialement sur la gueule les uns des autres en ce moment, ou alors il y a des choses qui m'échappent. Mais par contre, ce que j'ai remarqué effectivement, c'est que c'est beaucoup plus simple de collaborer avec des personnes qui sont sur la même thématique. Donc dans la photo, on fait beaucoup beaucoup de choses. L'an passé, on a organisé un stand au salon de la photo avec 10 sites photo, et le salon de la photo dans le secteur, c'est un gros événement, quoi. C'est un des deux gros événements français sur la photo. Il n'y avait rien sur Internet, ou quasiment rien avant l'année passée. Il y avait une présence assez marquée d'Internet, parce qu'on s'était organisé entre sites photo. Et là, la collaboration est naturelle, parce qu'en final, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Pierre, comme on est sur le même sujet, on a forcément beaucoup d'occasions de travailler ensemble. Peut-être plus que ce qu'on a quand en finale la discussion, c'est pas aller beaucoup plus loin que quel micro tu utilises, comment t'as fait connaître ton truc, qu'est-ce que tu... Voilà, enfin, moi je trouve que à un moment on avait essayé d'organiser des choses entre podcasteurs qui n'ont pas trop pris. C'est bien s'il y a des choses qui se mettent un jour en place et qui prennent, mais il y a quelques années ça n'avait pas trop pris. Et par contre, par sujet, je trouve qu'il y a vraiment de belles synergies à mettre en place, quoi.
Bah, entre autres, moi, ce que je pense, c'est que dans la ligne de ce que vous dites, c'est peut-être plus facile pour un podcast quand il a une communauté derrière. Il y a la communauté des photographes, par exemple, ou pour ma paroisse à l'époque, la communauté des Mac, du Mac, pardon. Moi, je l'ai toujours dit et je resigne. Si j'avais pas eu le 1er juin 2005, je crois de mémoire, Mac Forever et Mac Génération qui avaient fait un billet sur Pomcast, ce serait jamais parti en vrille comme c'est parti en vrille. J'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir ça. Aussi, d'être comme j'ai toujours fait un peu de la veille technologique et que j'ai toujours regardé ce qui se passe aux États-Unis, j'étais pas aussitôt sur le truc que Bertrand a pu l'être, ou à l'époque, Luc Saint-Élie. Ou d'autres, beaucoup d'entre nous ici, mais 2005, c'était quand même vachement tôt, et donc on n'était pas 10 millions de podcasts à l'époque, et donc j'ai été de fil en aiguille invité par ici, par là, chez Le Meur à la radio, ou d'autres trucs ainsi, dans de vraies émissions de radio en Belgique aussi, donc j'ai été connu. Mais c'est un gros coup de bol. Si t'as pas ça, si tu dois aller toi-même chercher tes auditeurs, c'est clair que c'est plus compliqué, et je pense que c'est beaucoup plus facile si t'as une vraie communauté derrière, qui où t'as des sites qui vont parler de toi et d'autres trucs ainsi, quoi.
Donc
c'est pour ça que, juste pour terminer là-dessus, faire un podcast, moi j'ai fait deux podcasts avant de commencer Pomcast à l'époque, sur des sujets qui n'intéressaient personne, et effectivement ils étaient écoutés par 4 personnes, quoi. Donc c'est à dire que quand celui qui décide aujourd'hui de démarrer un podcast, il faut d'abord qu'il se commence à se demander, à se poser la question de savoir sur quoi est-ce que le sujet
de toute façon, je pense qu'il y a plus personne qui démarre de podcast aujourd'hui déjà.
Ouais.
Et ceux qui démarrent, ils ont vraiment un sujet. Ouais, c'est sûr, si t'as pas de sujet, ça sert à rien.
Mais bon, donc ouais, enfin l'idée, c'est ouais, c'est ça, quoi. Et puis surtout de pas y aller forcément, enfin y aller entre autres en faisant ce qu'on aime d'abord, parce que moi, quand on a démarré Pomcast à l'époque, c'était pas pour que ça marche, hein. C'était parce qu'on avait envie d'en parler, Et puis après, ça, si derrière ça peut marcher, mais il faut pas forcément y aller en se disant que qu'on va avoir 10 000 auditeurs et qu'on va être millionnaire, quoi. Il y a peu de chances que ça marche.
Ça, mais c'est, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on a vu une première vague de podcasts se casser la gueule. C'est que très vite, les gens s'aperçoivent que on n'est pas millionnaire du jour au lendemain parce que y a 10 000 personnes qui t'écoutent. Hein. Ça, c'est clair.
Encore et voilà, que tu as t'as quand même 20 millionnaires. Oui. C'est pas le bon mot, mais t'as des chances de gagner de l'argent.
Voilà, tu as des chances de gagner de l'argent, mais avant d'arriver à 10 000 d'audience, il faut faire un minimum de travail pour que justement mériter tes 10 000 d'audience.
Ouais, puis les gagner pour la même quantité de travail, tu aurais beaucoup plus d'audience si tu le faisais en format écrit. Hein.
Le problème, c'est pas tellement de les gagner, les auditeurs, c'est aussi de les garder après.
Et de les garder, oui, c'est sûr, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le podcast il y a quelques années avec de très bonnes idées, une réalisation technique qui était plutôt pas mal, et qui, au bout d'un moment, ont baissé les bras, et d'ailleurs, on le voit, iTunes est un cimetière de podcasts.
Ouais, absolument. Mais moi, je pense, pour enchaîner probablement sur un autre sujet, mais moi, je pense pas qu'il y ait de modèle économique au niveau du podcasting. Hein. Benoît va sûrement avoir une autre opinion là-dessus. Moi, en tout cas.
On en reparlera, Pierre, ça, pour le coup. C'est le sujet de la troisième partie, donc il vaut mieux pas en parler maintenant pour pas empiéter sur
ça. Ok, mais juste, moi, même sans parler de modèle économique, moi, ce qui me fait triper par rapport à la chaîne guitare, c'est ce que ça peut m'amener comme. Comme motivation justement par rapport à ma passion, si tu veux. Donc le salaire que je retire par rapport à la chaîne guitare, bah, c'est tous les musiciens incroyables que je suis allé interviewer, les guitares qu'on m'a prêtées, les disques qu'on m'envoie, les concerts où je me fais inviter, etc. Si tu veux. Donc par contre le modèle économique, mais bon, ok, on en reparlera dans une troisième partie, donc on va pas aborder ça maintenant là. Mais c'est juste pour revenir sur un point sur lequel tu parlais, Stuff, par rapport à la communauté. Encore une fois, je parle de ce que je connais, là, la chaîne guitare. Moi, j'ai démarré ça, il n'y avait pas de communauté, rien du tout, hein, que dalle, nada. Hein. Bon, puis là, sur la page fan Facebook, il y a quoi, 800-900 personnes, ça a démarré de rien. Et puis ça,
c'est intéressant que tu mentionnes Facebook, parce que ça a un peu changé la donne aussi. Il y a 5 ans, il n'y avait pas Facebook et Twitter. Alors ouais, aujourd'hui, tu as deux armes avec toi qui sont Facebook et Twitter. Si tu ne te débrouilles pas trop mal... Là, je prends l'exemple d'un client pour lequel je bosse. Il y a un site, salonsnap.com s'appelle, et le mec, il a eu l'idée formidable à un moment donné de faire un concours sur Twitter pour gagner un MacBook Pro. Et le gars pour qui je fais ça est un peu un génie du marketing, et c'est ce qu'il fait. Effectivement, il sait ce qu'il fait, puisque en faisant ce concours à la con pour gagner un MacBook Pro, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il a eu 10 000 followers sur Twitter. Et 10 000 followers, ça vaut plus qu'un MacBook Pro.
Bah oui, enfin, quoique non, c'est pas sûr.
Je promets que ça vaut plus qu'un MacBook Pro en marketing.
Ouais, mais enfin là on peut ouvrir un autre débat, mais franchement, 10 000 followers, 10 000 branleurs qui sont inscrits pour gagner un MacBook Pro, comme communauté.
Et qui vont l'unfollower après.
Non, parce que tes 10 000 followers, tu peux les... Bon, là c'est un autre débat, c'est vraiment du marketing pur, mais tu peux les convertir, t'as un taux de conversion, et si tu te débrouilles pas trop mal, tu peux les convertir en vraiment, je sais pas moi, 500 clients potentiels, et dans le cas... présent, où il y a vraiment un business model derrière. C'est juste pour illustrer le fait que Twitter et Facebook sont une force impressionnante qui n'existait pas il y a 5 ans.
500 clients, c'est pour quel type de produit, sans vouloir être indiscret.
L'application qu'on développe.
500 clients pour une application.
Non, 500 clients, non. C'est une application iPhone, mais en fait, c'est.
Donc, 500, tu parlais de.
Non, quand je dis 500 clients, ça veut dire
500 clients pour quel type de produit.
Non mais en fait c'est une application où tu pour résumer très rapidement où un peu basé sur le concept de l'enchère, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et s'il y a 500 personnes qui à un moment donné achètent des produits régulièrement, ça sur les 10 000 qui ont suivi sur Twitter, ça fait un taux de conversion assez impressionnant, ce qui est déjà beaucoup, hein, 5%. Mais tout ça pour dire que
je me disais, comme c'était sur un MacBook Pro, c'est quoi, c'était après la boîte vend du Mac ou c'est...
Non, elle vend de tout, enfin elle propose des Non mais le fait que ce soit un MacBook Pro, c'est juste que c'est une excuse comme une autre pour c'est de la publicité pas chère entre guillemets. Ouais. Pour moi, c'est de la publicité pas chère. Le prix d'un MacBook Pro, c'est c'est négligeable par rapport à l'apport marketing. Bon, après, c'est une vraie société qui a des budgets, hein. C'est pas le petit podcasteur qui démarre, mais tu peux faire un truc plus petit, je veux dire, t'es pas obligé d'offrir un MacBook Pro.
Tu peux offrir un iBook Pro.
C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'avoir 10 000 personnes qui se sont inscrites pour un concours et qui vont se désinscrire le lendemain.
Ils vont pas du tout se désinscrire le lendemain. Non, c'est pas ce que les gens font, les gens restent inscrits. Je te promets j'ai vu les courbes d'augmentation de followers de jour en jour et ça marche. Bon, on verra au final, mais pour prendre l'exemple là du gars pour lequel je bosse, je sais que c'est pas son premier coup au niveau marketing, et c'est aussi un autre truc, on en parlera plus tard peut-être éventuellement, mais c'est le problème aussi dans le podcasting indépendant, c'est que c'est un petit peu, j'en remets encore une couche sur le fait d'être développeur indépendant, c'est que t'es pas juste développeur, t'es pas juste le mec qui code, de la même façon t'es pas juste un podcasteur, un mec qui parle dans un micro, mais tu dois être aussi quelque part un marketeur, quoi, c'est-à-dire que tu dois te vendre, et beaucoup d'entre nous on savait pas comment faire ça, c'est pas notre truc.
On va peut-être passer à la deuxième partie. On va faire une petite pause musicale, le temps de prendre un verre d'eau, de manger musicale. Un petit truc.
Comment ? Juste un titre ou plus ?
Non, okay. Un titre.
Bon, bah alors, on y va alors.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
nous voilà dans la deuxième partie. Dans la première partie, on avait parlé de la situation actuelle du podcast. Désormais, nous allons parler de l'avenir et des pistes à prendre dans le futur. Alors, aujourd'hui, pour commencer, on va parler d'iTunes. Alors, je suis désolé hein, pour le fait que je m'exprime pas bien. C'est juste que j'ai le retour, donc ça me perturbe. Bref. Donc aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, iTunes reste le principal moyen d'écouter et de découvrir les podcasts. Alors, est-ce que iTunes est gênant ? Est-ce qu'il est mauvais, quasiment, pour le développement du podcasting ?
N'importe quoi, au contraire.
Il y a pas iTunes, non mais est-ce que au le final, le fait qu'il apporte de trop grosses contraintes fait...
Et quelles contraintes ?
Alors, moi, clairement, mon avis sur iTunes, c'est que c'est une, à la fois une très bonne chose et la plus mauvaise chose qui puisse arriver au podcast indépendant. Très bonne chose parce que quand même une plateforme unique pour s'abonner et visionner et écouter des choses de tous horizons. Très mauvaise chose dans son approche, par exemple, du classement qui est totalement... totalement débile et totalement irréaliste. C'est pas parce que ça fait longtemps que c'est comme ça que ça doit pas changer.
Ouais, mais bon, c'est Apple, ça va pas changer du jour au lendemain.
Oui, mais on est tous d'accord pour dire que le classement d'iTunes, c'est absolument n'importe quoi.
Il faut séparer les podcasts indépendants.
Un système de classement qui se base sur le nombre d'abonnements la veille, c'est pas du tout le reflet de ce qu'est réellement l'audience.
C'est sûr, mais bon, en même temps... En même temps, on en revient à ce que je disais, si tu te bases sur les classements de iTunes pour éventuellement être connu ou quoi ou qu'est-ce, je crois que tu te vois, en fait, il y a d'autres façons de... Mais après, quand les gens te cherchent, la plateforme où ils vont aller voir, c'est probablement peut-être de un Google et de deux iTunes, quoi.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est à la fois une très bonne chose et aussi une très mauvaise chose. C'est-à-dire
mais ouais, je suis d'accord avec toi,
Quand tu vois que dans le classement des podcasts, encore le truc d'Eric et Ramsey, moi je suis désolé, ça me hérisse le poil.
De Radio Podcast d'ailleurs.
Ouais.
Moi ce que je trouve très positif dans iTunes, c'est iTunes sur l'iPhone.
Il n'y a plus de podcast. Oh, mais bon, c'est pas grave. C'est pas possible. Pardon techniquement. Parce que le serveur il est down, donc ça peut plus être possible ça. Je vous ai enlevé une de ces chiées de concurrents, les mecs, vous rendez pas compte, en travaillant pour Radio Podcast.
Est-ce que aujourd'hui c'est indispensable de créer une alternative à iTunes? Est-ce que pas indispensable, mais est-ce que ce serait bien de faire une alternative à iTunes, c'est-à-dire un logiciel fait par les podcasts?
Alors, la question c'est pas est-ce que c'est bien, la question c'est est-ce que c'est réussissable, entre guillemets, c'est français ça, réussissable, parce que ça me fait complètement penser à une société espagnole qui a décidé de rentrer en compétition avec l'iPad, et ils sont persuadés qu'ils...
Tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît.
Il y a plein d'interruptions là, en fait, plein de mises en attente.
Non, parce que Pierre se déconnecte souvent et je suis obligé de le rajouter, donc ça fait. Stoff, tu peux répéter ta phrase, s'il te plaît.
Quand quelqu'un se déconnecte, tu dois pas déconnecter tout le monde, hein, en fait.
Non, mais le problème c'est que pendant un court instant, je mets en attente la conférence pour pouvoir ajouter Pierre à la conférence.
Mais pourquoi?
Parce que je peux pas l'ajouter manuellement comme ça.
Bah pourquoi? Bah si, tu le drag and drop.
Ça marche pas, le drag and drop.
Bah, bref, bien sûr que ça marche.
Répète ta phrase, Stuff.
Bon, soit. Qu'est-ce que j'allais dire?
La société espagnole.
Oui, la question c'était est-ce que c'est pas souhaitable? La question c'est est-ce que c'est réussissable? Parce qu'il faut arrêter de se souhaiter des trucs, hein, on n'est pas chez les bisounours. Il faut essayer de voir si ça va marcher. La société espagnole qui veut concurrencer l'iPad et qui est persuadée qu'elle va y arriver, c'est bien, c'est sympa pour elle si elle est persuadée, c'est juste qu'elle va pas y arriver. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui du jour au lendemain décide d'aller concurrencer iTunes, bah juste bonne chance quoi. Y a peu d'exemples qui ont réussi à plus ou moins faire un truc comme ça. Un des exemples qui me vient comme ça de par la tête, hein, c'est pas parce que Bertrand est là, c'est Podemus à l'époque, qui a réussi sur certains points. Et voilà.
C'est après. Bon, il a créé.
C'est Pierre qui joue de la guitare derrière.
Et oui, c'est le moment musical en fait. Vous pensiez que la pause musicale est passée et en fait pas du tout.
Ah, je pensais que ça allait pas s'entendre, désolé.
Mais c'est pas grave, au contraire, ça nous fait le petit bruit, le petit jingle, genre.
Eh, tout ça pour faire la promo de ton podcast.
C'est pas bien.
C'est petit, monsieur.
Un petit ok, plug. Je l'ai posé, c'est bon, ok. Ouais.
Mais je rêve. Faire de la guitare pendant le beau débat d'octet.
Pour en revenir, est-ce que c'est souhaitable et est-ce que c'est faisable? Je sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, on peut quand même essayer d'influencer les choses et peut-être qu'au bout d'un moment, Apple comprendra aussi qu'il peut pas s'endormir sur ses lauriers et faire évoluer son iTunes. C'est pas, c'est,
je pense
c'est
qu'ils quand sont, même. Je pense qu'ils sont, ils s'en foutent un peu en fait du podcasting Apple. Je pense que ça a très peu d'intérêt pour eux, si ce n'est le fait de vendre des iPhones. Et à un moment donné, d'avoir surfé sur la vague. Après, la finalité du truc, c'est que ils ont jamais vraiment rien fait du podcasting, quoi.
Techniquement, qu'est-ce qui manque à iTunes aujourd'hui ?
Si tu regardes, ils ont une offre de mise en place de podcasts, mais qui sont destinés à des publications spécialisées.
Ah, le serveur là,
des choses pareilles, oui. Qui
non, mais le truc, ouais, le podcasting serveur, mais ça, c'est un truc pour les unifs et tout ça. Et encore, ça,
exactement,
c'est historiquement.
C'est destiné à un interne et c'est la étude.
Ouais, mais en plus, historiquement, ce truc a été développé par un étudiant français en plus. Et donc, c'est un truc qu'ils ont récupéré, qu'ils ont intégré deux coups de cuillère à peau. Et c'était sympa, quoi. Mais c'est pas vraiment un truc qui est parti. C'est pas une décision de chez Apple où ils ont mis du budget pour développer un logiciel. Non, c'est plutôt. Plutôt le coup du hasard entre guillemets.
Hein. Et pour finir, je crois que Apple n'en avait rien à faire du podcast au départ. Hein. Enfin, je me souviens de ça moi en 2005, mais ils ont mis énormément de temps à réagir sur iTunes. C'était pas du tout un intérêt pour eux et il a vraiment fallu que ça insiste dur pour qu'ils prennent en compte le podcasting au départ. Et ils ont intégré ça dans une plateforme qui de toute façon n'avait qu'une seule définition au départ, c'était vendre de la musique et le podcasting n'a pas.
C'est encore le cas de l'App Store. L'App Store est encore un dérivé de la plateforme musicale. D'ailleurs, y a des trucs que tu peux pas faire sur l'App Store à cause du fait que iTunes, qui entre temps porte d'ailleurs terriblement bien son nom, a été carrément formé pour vendre des disques. Aujourd'hui, tu peux pas, par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres, tu peux pas transférer une application d'un compte de développeur vers un autre. Pourquoi ? Parce que quand t'es Madonna et que t'as sorti ton album, allez, donnez-moi un titre de l'album de Madonna, je suis pas fan des mecs, donc soit, bon, XYZ. En général, tu changes pas de maison d'édition en plein milieu, tu vois. Donc ça n'existe pas les transferts. Et donc du coup, ça marche pas. Et du coup, effectivement, il y a des trucs au niveau podcast qui étaient pas idéal. Ceci dit, la vérité, c'est que quand même, ils ont été quand même. Moi, je trouve rapide par rapport à la rapidité d'Apple, parce que iTunes 4.7 est quand même sorti globalement 6 mois après que le podcast soit devenu connu aux États-Unis. Grand maximum 8 ou 9 mois. Ce qui est assez rapide pour une société comme Apple, quoi, qui n'est pas d'une réactivité.
Alors,
et moi, derrière, ils ont intéressant dans ce qui pouvait se faire sur d'abord devenir une instance de référencement, ce que iTunes aurait dû devenir sur le podcasting, mais ils ont refusé de communiquer sur les chiffres depuis le début. Résultat, tout le monde s'est retrouvé vraiment dans la merde parce qu'il n'y avait aucun chiffre qui sortait. Et puis, ils n'ont jamais eu aucun modèle, aucun business model sur le podcasting, un vrai business model.
Ouais.
Ça, c'est à la fois bien parce que ça permet de rester. Mais le fait de ne pas vouloir développer un modèle économique autour du podcasting, ça a vraiment bloqué aussi pas mal de choses. Donc le résultat, c'est qu'avec tout ça, qui s'est démerdé dans l'affaire ? Tout simplement les médias traditionnels qui, eux, ont eu les moyens d'avoir des régies derrière et de pouvoir faire vivre leur podcast. Et pour les podcasteurs indépendants, sans chiffres de iTunes et sans solution d'intégration de publicité, on aurait pu imaginer qu'il se passe quelque chose. Il n'y avait pas de possibilité vraiment facile de monétiser son audience.
Ce qui est intéressant, c'est que les régies traditionnelles dont tu parles ont à un moment donné fait une espèce une tentative de monétiser les podcasts traditionnels entre guillemets, et ça n'a jamais vraiment donné quelque chose, quoi.
Bah, j'en sais quelque chose puisque j'avais interagi avec la régie d'RTL, donc IP France, ouais. Du temps de Podemus d'ailleurs, on avait eu l'occasion d'en discuter pas mal de stuff et d'essayer
de j'étais un des seuls à avoir eu la chance de profiter de ce
point
instant de bonheur, on va dire.
Mm-hmm. Et c'est vrai que c'était pas évident. On a réussi à commercialiser vraiment des podcasts qui étaient ceux de David Guetta, un petit peu ceux de Carl Zero, un peu ceux de Loïc Lemeur, bref, ceux qui ont une vraie notoriété. Et pour les podcasteurs indépendants, c'était vraiment extrêmement difficile de faire quelque chose. Alors, il y a tout un environnement qui, à l'époque, était pas très favorable parce qu'il y avait pas les outils, justement, de statistiques qu'il y a aujourd'hui avec Médiamétrie et avec la Catch-Up Radio. Pour l'instant, d'ailleurs, c'est un service qui est accessible plutôt qu'à ceux qui ont les moyens de se le payer et donc aux grosses radios. Et nous, on avait essayé de mettre en place quelque chose qui puisse être valable pour tout le monde.
Alors, Bertrand, justement, parlant de ton expérience, parlons des points faibles d'iTunes. Techniquement, qu'est-ce qui manque à iTunes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque le multiformat ? Est-ce qu'il manque le podcast payant ? Le podcast en plusieurs parties ? Est-ce qu'il manque la personnalisation ? Qu'est-ce qui manque vraiment techniquement à iTunes ? Quel serait en gros votre iTunes idéal, quoi ?
Alors, mon iTunes idéal, il serait rose.
Non, c'était Bertrand, là. Je crois qu'on demandait l'avis de Bertrand.
Ouais,
non,
je sais.
Le problème d'iTunes, c'est que les podcasts, on sait très bien, sont complètement perdus au milieu d'une masse de choses et que c'est pas visible.
Il faudrait faire une séparation entre les podcasts indépendants et les podcasts de radio qu'on peut finalement appeler émission à la demande.
Moi, je crois pas. Il faut éditorialiser, en fait. C'est ce qu'on essayait de faire le temps de Podemus. Je ne vais pas parler de Podemus sans 7 ans, mais on essayait de mettre en avant chaque semaine 8 podcasts différents. Il y avait toujours 2-3 podcasts de médias traditionnels. Et puis, on faisait vraiment un random de podcasts indépendants. Et ça a permis à énormément de podcasteurs d'être mis en avant pendant une semaine sur un site qui avait pas mal d'audience. Et c'est ça qui manque au niveau d'iTunes. On sait très bien qu'il y a un gars, alors c'était Arnaud il y a quelques années, mais maintenant je sais même plus qui c'est.
Ça peut plus être lui, hein.
Ça peut plus être lui, ça c'est sûr. Et il y a un gars là-bas à Cupertino qui s'occupe un peu de ça, mais qui finalement fait pas d'énormes efforts pour aller chercher ce qui se passe, qui écoute pas vraiment des podcasts. Il n'y a pas de travail éditorial vraiment pour aller écouter de nouveaux podcasts et les mettre en avant. C'est ça qui manque. C'est vraiment le petit coup de boost de.
Parce
de
que c'est pas son job full time, parce qu'il n'est pas associé à ça full time. Arnaud était pas dessus non plus full time.
Non plus. Alors c'est vrai qu'avec Arnaud c'était plus facile parce que bon, on était copains, donc on lui passait un coup de fil et il mettait en avant un podcast, et quand on lui donnait un tuyau, il le faisait, donc ça mettait tout de suite du beurre dans les épinards de ce podcasteur qu'on voulait un peu mettre en avant.
Ouais, puis c'était un podcasteur aussi, donc c'était différent.
Voilà, mais c'est vrai qu'il manque ça. Donc le iTunes, le vrai problème aujourd'hui, c'est, moi j'ai le sentiment qu'iTunes est vraiment seul sur le marché de façon colossale. Je vois les stats du podcasteur que j'ai repris, c'est impressionnant le pourcentage de contacts qui peuvent venir via iTunes, de téléchargement via iTunes. Donc c'est vrai que là aujourd'hui il y a un vrai problème à ce niveau là
Alors parlons d'autre chose que iTunes, parce que là on va parler un peu, pas vraiment marketing, mais on va parler changement des mentalités. Comment est-ce que, à votre avis, on peut arriver à faire connaître le podcast indépendant par rapport aux émissions de radio, enfin par rapport au podcast de radio?
Je crois qu'il faut aller chercher l'audience dans les... Je crois que pour que ça fonctionne, il faut avoir une thématique identifiée. Et puis, il faut aller chercher l'audience.
Non, mais le podcast indépendant en général.
En fait, c'était... Alors, attends, j'essaie de te répondre. Excuse-moi.
Oh, excuse-moi.
Et donc, il faut aller chercher les gens auprès du sujet. Parce qu'en fait, personne, ou très peu de gens... je crois, vont se dire, tiens, je m'écouterai bien un podcast demain. Par contre, ils vont se dire, tiens, je vais chercher de l'information sur telle ou telle thématique, la guitare, par exemple. Fait que ma fille veut une guitare. Non, mais c'est, en plus, je suis en train de visser plein de... Si, tu vis guitare, parce que ma fille veut une guitare pour Pâques. Donc, du coup, je suis en train de chercher plein d'informations autour de ça. Et donc, la personne va chercher de l'info là-dessus. Et puis, de là, elle va peut-être prendre goût aux médias. Je veux dire, c'est la même chose pour la radio. Comment est-ce que tu fais? T'as pas de promotion pour la radio, simplement t'es dans ta voiture, t'as ce machin sur le tableau de bord, tu tournes les boutons, puis à un moment ça fait du bruit. Et de là tu commences à te dire, tiens, est-ce qu'il y en a qui font des bruits différents? Moi je crois pas que le... Peut-être à tort, hein, mais je crois que c'est plus par les contenus que ça passe, ce genre de choses.
Ça passe aussi, à mon avis, Benoît, par le fait de pouvoir être repris sur des sites qui sont dans la même thématique et des sites importants d'audience, parce qu'il faut une niche d'audience au départ pour qu'un podcast prenne son envol vraiment. Donc dès qu'on est dans un podcast thématique, il faut essayer, c'est la vraie difficulté, d'avoir des accords de rediffusion directement sur des sites d'audience, les avoir gratuits dans un premier temps et pouvoir mettre de la pub dans un second. Moi j'ai beaucoup fait ça au début, et c'est vrai que... un podcast souvent que je faisais sur ZDNet toutes les semaines, l'audience énorme de ZDNet.fr avec tout d'un coup quelque chose qui arrive en homepage le vendredi, ça permettait d'avoir quelque chose que j'aurais jamais pu faire par moi-même. On avait 200 000 téléchargements du podcast chaque semaine, c'est énorme, grâce uniquement au fait que ça, c'était en homepage de ZDNet.fr et le pourcentage de podcasts issus de iTunes était extrêmement faible.
C'est pour ça que je pense qu'avoir encore un très bon site et utiliser ces entre guillemets vieilles technologies là risque très fortement de payer beaucoup mieux que de juste de penser ça va aller avec mon flux XML et iTunes quoi. De la même façon qu'il faut avoir un bon son, je pense qu'il faut aussi avoir un site qui tue, et si c'est pour avoir un site pourri, c'est juste pas la peine quoi.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il est il est important pour des podcasts indépendants en tout cas de se fédérer sous une même bannière, si tu viens sur un site qui agrège ton podcast préféré et que dans ce site il y a 3 ou 4 podcasts qui sont susceptibles de t'intéresser, bah, c'est le meilleur moyen de les connaître.
Est-ce que justement Christophe va réagir chaînes, sur ce que tu as dit?
Faire en fait des chaînes, bah oui, voilà, je prêche un peu aussi une fois de plus pour ma paroisse, mais c'est vrai que ce qu'on essaye de monter avec No Watch, c'est cette idée de pouvoir aussi partager nos audiences, que chacun arrive avec ses auditeurs et ses visionneurs, et puis que tout le monde bénéficie finalement de la pollinisation croisée, pour reprendre un terme inventé par Patrick Béja.
Est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de s'unir derrière une seule organisation, enfin une seule bannière, comme l'avait tenté Bertrand Lenôtre avec le groupement du podcast francophone à l'époque ?
Alors, une seule bannière, je ne sais pas. Il n'y a pas une seule web TV aux États-Unis.
Non, mais pas une web TV, mais une association.
Il y en a une très grosse qui s'appelle Revision Free, que je ne présente pas ici, mais voilà. C'est l'exemple type Revision Free du truc réussi. Mmh. Et pourquoi tous leurs podcasts fonctionnent à ce point, c'est parce qu'ils sont hébergés chez Revision Free. Plutôt que de faire chacun son truc dans son coin, à essayer de grappiller de l'audience aux copains par des moyens plus ou moins détournés.
Mmh. Est-ce que, en plus de faire des sites comme Revision Free, parce que Revision Free, je considère un peu ça comme un truc privé, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour ambition de réunir tous les podcasts américains, et vous n'avez clairement pas l'ambition de regrouper tous les podcasts francophones.
Bien entendu.
Mais est-ce que, justement, la création de ce genre de sites qui sont en fait des sortes de tribus, hein. Enfin, j'exagère, mais enfin, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est des groupes. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au final, à long terme, une guerre des groupes ? C'est-à-dire un gros site contre un gros site qui se tape sur la gueule ?
Mais c'est le principe même du monde dans lequel on vit. C'est que à partir du moment où tu fais quelque chose, tu vas forcément avoir des concurrents. Voilà.
Et après encore une fois, il faut arrêter de penser que pour je vais citer Steve Jobs à l'époque, faut arrêter de penser que pour que Apple vive, il faut que Microsoft meure. Et de la même façon, faut arrêter de penser que pour que ton podcast vive, il faut que l'autre meure.
Exactement.
Oui, mais c'est la pensée de pas mal de gens actuellement.
Parce que justement, t'as un phénomène de. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est par des. Et je rejoins tout à fait ce que tu disais, Christophe. Au final, c'est par la découverte d'un sujet qui t'intéresse que tu découvres la technique, et de là tu passes sur tu vas chercher à aller plus loin dans le truc. C'est très logique, c'est ce qui fait la force de Facebook en final. C'est le fait qu'une fois qu'on est connecté sur ce système là on voit arriver plein de flux d'informations différents qui sont intégrés, et du coup ça fait qu'à partir d'un système tu as accès à beaucoup de choses.
C'est la socialisation en fait, et comme tu dis, c'est pas parce qu'il y a eu un jour une chaîne qui a émergé qui s'appelait Canal+ que TF1 a mis la clé sous la porte. Et maintenant, c'est vrai que tu en as pour tous les goûts. Il y en a qui ne supportent pas Canal et qui aiment TF1, et d'autres qui ne supportent pas TF1 et qui regardent Canal. Et c'est pas incompatible. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en gros. Mais moi, à partir du moment où ils sont bons.
Dans oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Il y a quand même un cap technologique minimum. Et aujourd'hui, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de podcasts qui ne sont pas du tout au niveau minimum qu'ils devraient avoir au niveau technique. Et quand on entend quelqu'un dire bonjour dans sa cuisine, ça ne peut pas le faire. Surtout pour une heure et demie. Et
alors, Bertrand, justement, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que justement, la question suivante concerne un peu ce que tu dis. Est-ce que, pour diversifier le podcast et augmenter sa qualité, est-ce qu'une piste à creuser, c'est un site, enfin, ou n'importe quoi, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une formation gratuite, accessible et compréhensible pour même les noobs, une sorte de formation pour les nouveaux podcasteurs?
Ça s'appelle Campus Geek un petit peu.
Mais le problème c'est que c'est payant. Et c'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire qu'un mineur, un gars de 10 ans qui veut faire un podcast, il va pas aller à Campus Geek.
Est-ce qu'il a envie de te dire que si demain tu vas apprendre à jouer de la guitare, il va falloir que tu prennes des cours de guitare, il va falloir que tu achètes une guitare, il va falloir que tu achètes un ampli, que tu achètes des pédales d'effet, et tout ça, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui,
les gars, vous avez fait un contrat avec Pierre pour le.
Il y a
des trucs pas nets ici.
Allez voir la chaîne guitare.
Ce qu'ils font sur scène avec une guitare, c'est que tu as un niveau minimum. Sinon, personne ne va te faire monter sur une scène. Alors que le podcast permet à n'importe qui de monter sur la scène d'une certaine façon. Et certains se plaignent que les auditeurs soient pas là. Mais c'est malheureusement un peu normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un univers de concurrence médiatique, on est habitué à certains standards de son qui font que de son et de façon de s'exprimer et de longueur aussi de contenu qui font qu'il y a nécessairement une demande qui est proche de l'univers des médias traditionnels, y compris dans les podcasts.
Pour moi, il y a une sélection naturelle qui s'est faite au niveau des podcasts. C'est peut-être très prétentieux de ma part, ceux qui étaient mauvais, qui avaient un son pourri, au bout d'un moment, de toute façon, ils se sont découragés parce que c'était beaucoup de temps.
Oui, mais est-ce qu'il faut
un problème de qualité, c'est un problème de contenu. Quelqu'un qui va super bien parler dans un super beau micro puis qui raconte n'importe quoi, c'est pas parce qu'il aura bien appris à bien parler dans un bon micro qu'il va faire un bon podcast, quoi. Donc,
de toute façon, il y a une sélection naturelle et qui est indubitable et irréfutable, c'est l'audience. Ouais. C'est à partir du moment où plus personne ne t'écoute, c'est que c'est pas la peine de continuer. Voilà.
Ah ouais.
Ça n'enlève pas la question de la formation.
Si à ta première émission, tu as 5000 personnes qui t'écoutent, à la deuxième, tu en as 4000 et que l'audience se rogne comme ça au fur et à mesure, c'est que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais.
En même temps, si tu en as eu 5000 à la première émission, c'est que.
Tu avais beaucoup d'amis.
Tu avais soit beaucoup d'amis, soit un site qui a parlé de toi. Puis, mais si à la deuxième émission, tu en as 300, tu as compris en fait.
Voilà. Exactement.
Et pour revenir sur le sujet de la fédération des podcasts, peut-être je suis bien trop indépendant pour ça, mais moi j'y ai jamais cru, j'y crois pas plus maintenant. Et si je pousse l'exercice jusqu'au bout, si demain, je sais pas, Benoît et moi, on appartenait à une chapelle quelconque, c'est pas les 10 000 auditeurs de Benoît qui sont passionnés de photos qui vont se mettre à écouter la chaîne guitare. Je vois pas la pollinisation croisée comme j'ai entendu qui va se faire. Quelqu'un qui est intéressé par la photo, il va chercher photo dans Google, voire dans iTunes. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la chaîne guitare dans iTunes en tapant guitare et qui sont tombés sur le podcast. Autant je peux relativement vomir le iTunes au niveau du répertoire parce qu'il n'y a pas de distinction indépendant, pas indépendant, mais enfin bon, j'en ai fait une raison. Autant comme moteur de recherche, moi, à chaque fois que je rencontre un auditeur de la chaîne guitare, je lui pose la question et puis très souvent, il m'a trouvé via iTunes, quoi.
Comment tu peux être si sûr que les gens qui écoutent le podcast de Benoît ne seront pas passionnés de guitare aussi?
J'en suis pas sûr. C'est juste que c'est pas parce que t'aimes la photo que t'aimes la guitare et réciproquement. Et quelqu'un qui est passionné de photo, à un moment ou à un autre, c'est inévitable, il va tomber sur Benoît et quelqu'un qui est passionné de guitare, à un moment ou à un autre, il va tomber sur la chaîne guitare. Enfin, c'est un peu ce qui est en train de se produire. Si je travaillais encore plus, je pourrais probablement avoir encore plus d'expositions et puis enclencher une réaction en chaîne. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, une pente croissante un peu plus importante. Mais elle est là avec les efforts que je mets, quoi. Donc, le côté fédération, j'aime pas tellement le terme parce que ça a l'air de dire que je veux pas appartenir à des groupes, parce qu'au contraire, Dieu sait si on a eu des discussions passionnées, que ce soit au sein du GPF ou même j'ai rencontré Benoît plusieurs fois, et Bertrand, dès qu'on se croise, on a toujours des discussions par rapport à ça. Donc je pense pas être tout à fait asocial, quoi, mais le côté étiquette, rassembler, c'est un peu faire un iTunes de Gaulois dans un coin. Enfin, je caricature exprès, hein, mais c'est un peu comme ça que c'est l'image qui me vient à l'esprit, quoi.
Regarde le service est derrière que pour des services front, c'est-à-dire que tu parlais de Revision Tree, je crois que c'est plus dans les services derrière. Les services d'hébergement, les services de régie, etc., qui ont de la valeur ajoutée au regroupement. J'ai pas l'info, mais je ne suis pas convaincu que c'est le... Après, peut-être qu'effectivement, à un certain niveau, à un certain volume, ça commence à jouer si tu en as suffisamment. Mais je suis pas tellement convaincu que, tu vois, les gens qui écoutent une chaîne vont forcément aller écouter les autres. Mais par contre, c'est vrai là où il y a certainement de la synergie, c'est derrière. J'appartiens à un groupe de podcasteurs sur la photo. Et dedans, on a des gens qui travaillent ainsi avec des networks américains. C'est celui le seul francophone, en fait. Il y a un deuxième podcast francophone sur la photo, il n'est pas dans le groupement, pas encore. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et en fait, quand tu parles avec eux, le gros de l'apport du network pour eux, il est dans le back-office plutôt que dans le front. C'est moins dans les contacts avec les auditeurs que dans tous les services derrière. Voilà, c'est ce que mes contacts là-bas me disent.
Bah regarde, dans le catalogue de Revision Free, par exemple, les mecs se renvoient quand même la balle. Tu vois parfois Dignation faire de la pub pour Scam School et inversement.
On est d'accord, mais ce que j'ai compris.
Non, mais ça c'est marrant parce que
j'ai compris la valeur ajoutée et les plus dans tout ce qui va être back office, c'est-à-dire dans tout ce qui est pas la tout ce qui va aider à la production de l'émission, ce qui va aider à vendre l'émission, ce qui va aider à héberger l'émission, etc.
Mutualisation des moyens, oui.
Voilà. Plutôt dans une mutualisation des moyens, de ce que j'ai compris d'après l'expérience qu'ont partagé avec moi quelques amis, plutôt que vraiment dans le fait de faire la promo l'un de l'autre. Bon voilà, après peut-être qu'ils ne me disent pas tout aussi. Hein.
Nous par exemple chez Watch, on fait de la promotion pour les podcasts des autres aussi.
Il n'y a pas de Watch.fm qui devait être créé aussi.
C'est créé, ça existe.
Ah bon ?
Watch FM existe.
Il n'est pas encore ouvert.
Si. Patrick Béja s'en occupe activement.
Pour l'instant, là, il y a pas encore de podcast dessus, quoi. C'est juste une petite page.
Il y a actuellement 4 podcasts.
Oui, mais enfin bon, pour l'instant.
Chez Watch FM, il y a donc Azeroth.fr. Le rendez-vous tech de Patrick Béja, Upload et We Love Magic T.
Enfin, le site n'est pas encore construit, quoi.
Ben la page existe et tu peux déjà accéder à ces quatre.
Est-ce que We Love Magic T va. J'ai pas très bien suivi au final. Ça repart ou.
Non, mais c'est la revue tech maintenant. C'est un podcast vidéo.
C'est devenu un podcast vidéo. Qui s'appelle la revue tech, effectivement. Ouais. Et voilà.
Des fois, j'ai un peu de mal à suivre Christophe au fil des années, donc c'est pour ça.
Ok, on va passer à la troisième partie, je pense. On va parler dans cette troisième partie des nouveaux business models du podcast, de l'argent qui va rentrer dans le podcast. C'est inévitable. Enfin, on verra si c'est inévitable ou pas. En attendant, un peu de musique. Avec Come Back to You de Silence is Sexy. À tout de suite.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
De retour dans la troisième partie, avant d'aborder le premier sujet de la troisième partie qui est donc l'argent, j'avais juste oublié de le diffuser pendant la deuxième partie. C'est un message vocal qui a été déposé par Redor qui est sur le chat là actuellement. Il l'a déposé tout à l'heure sur le répondeur. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Salut les mecs, c'est Redor. En fait, je voulais savoir si le fait de faire un genre de grand consortium du podcast, est-ce que ça améliorerait vraiment la diversité du podcast? Et comment concrètement est-ce que ça permettrait de faire connaître les nouveaux podcasts et même ceux qui sortiraient des sentiers battus? Voilà, bon débat d'octet et à plus tard.
Ok. Bon, moi j'ai entendu.
Ouais, vous avez tous entendu ?
J'ai entendu aussi.
Moi j'ai Pierre. Rien entendu. Hein.
Toi t'as rien entendu ? Bon,
on va te refaire
non,
la.
Je suis juste avec mon iPhone. Hein, donc.
Et on va te formuler la, on va te formuler la question alors.
Donc attends, je vais l'écouter, je vais te dire.
Vous pouvez répéter la question ?
Alors.
Mais vas-y, le meuble,
attendez.
Sinon on répète brièvement.
Est-ce que le fait de faire un. Enfin, un consortium, attendez. Est-ce que le fait de faire un grand consortium du podcast, est-ce que ça améliorerait vraiment la diversité du podcasting? Comment concrètement cela permettrait de faire connaître les nouveaux podcasts, même ceux qui sortiraient des sentiers battus? Christophe,
si c'est moi qui réponds, je veux bien commencer. Moi, je pense avoir déjà répondu là-dessus. Moi, je n'y crois pas du tout. Hein.
Tu penses que c'est une comment on appelle ça ? Une utopie. Une utopie irréalisable.
Mais c'est que, enfin, moi, mon point, c'est que si tu veux y aller, faut pas forcément y aller en pensant qu'on va t'aider, quoi. Il faut y aller et faut t'aider tout seul. Il faut mettre.
Mais moi, j'ai jamais dit que je voulais faire ça.
Non, mais je te réponds pas à toi. Je fais une réponse globale. Donc c'est sympa qu'il y ait des structures qui aident à avoir de la visibilité et des choses ainsi, mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est gagné, quoi, et que donc il faut y aller et voilà. Après je pense que pour en revenir sur le coup des sujets à prendre, c'est probablement aujourd'hui plus difficile de prendre un sujet qui n'est pas pris, quoi. Pierre a prouvé le contraire avec le podcast sur la guitare. Apparemment, il y avait encore une niche à.
Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Steph.
Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Je trouve.
Moi, je pense que plus difficile aujourd'hui.
Il y a peu de podcasts économiques, par exemple.
Ouais, mais bon, si on parle de.
Il y a peu de podcasts sur l'actualité. Il y a peu de podcasts sur la culture. Il y a peu de podcasts sur la musique, très peu de podcasts indépendants, à part des podcasts électro, mais ça compte pas. Parce que c'est pas vraiment des podcasts de. Enfin, si, c'est des podcasts de passionnés, mais là, les podcasts d'électro indépendants, c'est des podcasts de mix en fait. Donc il y a pas vraiment de
chats, alors que c'est pas faute d'avoir des photos de chats partout sur internet, ça sera un sujet populaire.
La charoulette.
Ouais. Lolcat pod.
Des photos de chat peut-être.
Ça, il y en a sûrement des
De chatroulette, tu veux parler? Bien entendu.
Pour en revenir à la question, hein, ça tourne toujours autour de. Je crois qu'en partie, on a déjà répondu. Et puis le deuxième élément, c'est que ça va tourner certainement autour de tout débat qu'on avait eu il y a quelques années, c'est-à-dire quelle organisation, quels moyens, pour faire quoi, etc.
Et le débat n'est toujours pas clos.
Ouais, parce qu'on n'a pas encore parlé de thunes, donc il est temps qu'on s'y mette, non?
Ouais, c'est parti, ouais, mettons-nous à la thune, parce que justement.
Je vais peut-être dire un truc sur. Je sais pas si vous avez suivi des expériences comme TechTalk TV, par exemple, sur la vidéo Nouvelle Technologie. Et là, il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est-à-dire que c'est une plateforme, en fait, avec un vrai studio de télévision, dans lequel on peut venir. Il suffit d'être membre de la communauté, mais c'est facile de s'inscrire, d'amener un sujet. On invite des membres de la communauté. Il faut voir un peu la qualité de la communauté qui est là. Vous avez tous les décideurs français qui sont dans le web, qui sont présents dans cette communauté et qui viennent débattre dans des conditions super pro sur un plateau. Et ça donne des podcasts vidéo et la diffusion live aussi vraiment intéressante.
Tu peux répéter le nom ?
TechTalk TV. TechTech, Talk TV. Ou point TV en l'occurrence. Et ça, c'est intéressant. Il y a Goom Radio, alors je ne suis pas fan de Goom Radio, hein, ils ont actuellement 7 ou 8 cabines son numériques qu'ils vont mettre à disposition de gens qui veulent faire aussi du son et qui seront dans un univers où ils pourraient être conseillés, faire des contenus. Donc il y a ça aussi, ça peut être important d'avoir à Paris, évidemment, mais peut-être dans d'autres grandes villes de France, des regroupements un peu technologiques avec du matos, avec des gens qui viennent prendre des choses qui font en sorte.
C'est pas ce qu'essayait de faire Christophe par hasard.
Mais on retombe un peu sur la discussion tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certainement beaucoup de synergie à mettre en place sur tout ce qui est back office.
Bien entendu, c'est l'objectif avoué de No Watch, c'est la mise en commun d'un certain nombre de techniques et de moyens et d'expériences qui profitent à tout le monde. C'est ça la raison d'être de No Watch.
Alors, pour parler de notre sujet, de notre troisième...
Après, on peut y croire ou ne pas y croire. Nous, on y croit à fond. Et jusqu'à présent, c'est vrai que No Watch, ça existe depuis quelques semaines, quelques mois. Les signaux qu'on reçoit sont plutôt encourageants. Donc, on va continuer dans cette voie-là et j'espère que l'avenir sera florissant. Ah oui.
Tiens, d'ailleurs, n'importe qui peut... Enfin, n'importe quel podcasteur peut faire une demande pour faire partie de No Watch TV.
Alors, il y a des conditions à remplir. C'est clair qu'on ne prend pas tout le monde. On a en fait une section qu'on appelle The Lab, qui est une espèce de pépinière en fait de podcast. Mais même dans The Lab, on impose quand même un certain nombre de conditions.
Oui, mais certains podcasts qui sont reconnus,
La première des conditions, c'est déjà d'avoir un podcast qui existe.
Pour c'est lesquels pas mal comme condition.
Oui, non, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets plein la tête, mais qui ne concrétisent rien. Donc, c'est pas No Watch, comme tu disais, Stuff, tout à l'heure. Nous, on ne peut pas faire les choses à la place des gens. C'est-à-dire qu'à un moment, s'ils veulent rentrer soit dans No Watch, soit dans The Lab No Watch, faut quand même qu'ils aient tourné ou enregistré un certain nombre d'épisodes de leur podcast, que ça tienne un petit peu la route. Et puis après, nous, on regarde, on a un comité, on regarde et puis on dit ce qu'on en pense. Et à ce moment-là, on tranche.
On va peut-être revenir là au sujet de la troisième partie, parce que là ça fait quand même 95 minutes, on a dépassé de plus de 5 minutes le temps normal du débat d'octet. Donc Pierre, visiblement, n'a pas aimé ma réflexion, donc il s'est cassé.
Non, il est toujours là, Pierre.
Non, mais c'était cassé à un moment. On va parler un peu d'un sujet qui est plus casse-gueule que d'habitude, enfin plus casse-gueule que les autres, puisqu'on va parler un peu du fric. Je ne sais plus qui disait en début d'émission, enfin je pense que tout le monde disait en début d'émission que le fric va arriver, c'est indéniable, et que c'est indéniable, il va faire péter
Christophe
le monde
qui
du podcast.
Ça, non
comment
c'est Christophe,
Christophe qui disait ça, et bah Christophe, merci de cette réflexion. Là, moi je me tourne vers Benoît, non,
c'est
parce
pas moi
que.
Qui l'ai dit, hein, je vous promets, hein, parce qu'au contraire.
Alors,
je pense un peu le contraire.
Alors, je vais me tourner d'abord vers Benoît Marshall, donc de Déclencheur. Parce que si je me trompe pas, et tu me rectifieras, tu as lancé récemment Déclencheur Gold.
Oui, tout à fait.
Et donc qui en fait est la version de Déclencheur en version payante, donc avec certains de tes podcasts en payant.
On ne l'appelle pas comme ça, mais c'est-à-dire que l'argumentaire, c'est pas que c'est payant, si tu veux. C'est plutôt le fait qu'on fournit des choses. Mais c'est une idée assez simple, hein. Quand tu parles avec les auditeurs de Déclencheur, j'avais deux retours. J'en avais un qui me disait touche à rien, fais un petit truc dans ton coin, c'est très sympa, et un petit machin le lundi, ça me convient très bien. Et un autre groupe de gens qui nous disait on voudrait bien que ça soit beaucoup plus d'émissions, des sujets beaucoup plus variés, des sujets plus sophistiqué et complexe à faire, et donc maintenant on propose deux formules, la formule silver qui est la formule pour les gens qui sont contents d'avoir une chouette bonne petite émission sur la photo tous les lundis, et la formule gold pour les gens qui veulent des sujets plus approfondis, plus nombreux.
Alors moi je ne me suis pas inscrit à Déclencheur Gold parce que je suis pas passionné de photos dans l'absolu, mais bref, anyway, est-ce que dans Déclencheur Gold c'est quoi en gros le ratio Déclencheur Gold, Déclencheur Normal? Est-ce qu'il y a plus de podcasts dans Déclencheur Gold que dans Normal, ou...
C'est surtout des émissions beaucoup plus longues. Donc tu vas avoir un sujet, le dernier Gold c'est sur le sténopé. On a traité le sujet assez longuement avec l'artiste, on a discuté assez longuement de ce qu'elle avait fait, de sa démarche, etc. Ça donne un sujet qui, pour les gens qui sont intéressés par la photo, hein, parce que c'est, je ne me cache pas que je n'ai jamais cherché à faire quelque chose qui puisse plaire à quelqu'un qui n'est pas dans la mouvance photo. Je crois que pour les gens qui sont intéressés par la photo, ça leur donne un regard sur la démarche, un regard sur les outils, un regard sur la manière de traiter ce sujet-là, un regard sur la manière de sublimer certains éléments techniques des outils utilisés, de la démarche qui est beaucoup plus pertinent que ce qu'on a en silver. Mais la personne qui est intéressée par la photo et qui veut pas nécessairement aller qui est plus plutôt dans sa démarche photographique, je crois, sera tout à fait aussi intéressée par silver.
Alors,
on a deux émissions et puis t'en as une pour les gens plus passionnés, si tu veux.
La question là va être beaucoup plus terre à terre. Est-ce que ça marche ?
Beaucoup trop tôt pour répondre.
Beaucoup trop tôt pour répondre, mais pour l'instant, tu as eu combien d'abonnements à peu près ?
Beaucoup trop tôt pour répondre. On est dans nos objectifs, mais il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan parce que c'est pas après un mois que tu peux tirer un bilan raisonnable.
Mais est-ce que tu penses, avec ta petite mais intéressante expérience, est-ce que tu penses que le podcasting payant, c'est un business model qui peut être, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, viable ?
Il y a une réalité, c'est que la production de contenu média, ça n'a jamais été une opération pour devenir riche. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup, ça date du siècle dernier, et c'était une discussion entre les fondateurs de Random House, qui est devenue une des grosses maisons d'édition, qui est une boîte américaine, et leur comptable. Et le comptable disait, mais en fait, on gagnerait plus d'argent si on arrêtait de publier des bouquins et si on mettait simplement l'argent que vous avez placé sur un compte bancaire avec un taux d'intérêt de base, ça rapporterait plus que de faire ça. Je crois qu'il faut quelque part pas perdre ça de vue. Tous les projets médias jusqu'à présent, et sauf bouleversement majeur, et à part quelques secteurs qui ont connu des situations assez spécifiques, comme le cinéma ou des choses pareilles, mais qui sont vraiment dans des contextes très particuliers. Globalement, la production de médias et de médias spécialisés, c'est pas un truc qui rapporte des fortunes. Par contre, oui, je crois qu'il y a moyen de d'en vivre correctement, sinon on le ferait pas.
Est-ce que je peux rajouter un truc par rapport à ça ? J'ai jamais mis Pomcast dans une optique podcast payant, et pourtant je suis persuadé que c'est la bonne direction. Et je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, qui est Screencast Online, qui est un podcast fait par un Anglais, John McAllister, assez connu de Screencast. En gros, c'est un des premiers à avoir fait du screencasting, et qui est payant depuis le début, depuis Day One, qui a une version gratos et une version payante, un abonnement, ainsi de suite. Un autre exemple, c'est peepcode.com, donc sur le principe du peep show, mais pour les développeurs. Donc au lieu de regarder des madames, on regarde des screencasts, où je paye $150 par an pour avoir tout le contenu, et je peux aussi payer $9 par screencast. Et ça marche pour ces deux gars-là, par exemple. Alors c'est un peu c'est deux publics différents. D'un côté, il y a les développeurs, nous, moi, les $150 que je paye par an, c'est peanuts par rapport à la connaissance que j'engrange. Et d'un autre côté, les utilisateurs de Mac normaux, qui sont les clients de Screencast Online, qui apprennent à utiliser tel ou tel logiciel. Et je pense que c'est un business model très 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 intéressant, et que c'est pour moi probablement une des seules façons de gagner de l'argent directement avec le podcast, quoi. Pour moi, plus viable que de la pub.
Mais ça, je pense que ça marche pas sur ces deux modèles-là, parce que justement, c'est du didacticiel, c'est de la formation. Voilà, donc tu es prêt à payer pour ça. Mais par contre, si c'était juste une émission comme ça...
Je pense que les gens sont... je prends l'exemple de Pierre. Je pense qu'a priori, de Benoît, je vais y arriver. Vu que les gens sont... que t'es dans un secteur particulier, je pense que ça a très forte chance de marcher. Les gens sont prêts à payer pour écouter quelque chose de qualité, quoi. Et puis il n'y a pas de secret, si à un moment donné tu veux... Le truc, c'est toujours le même problème, c'est que très souvent on a démarré ça comme un truc fun en 2005 pour beaucoup d'entre nous, sans vraiment le but de passer trop de temps, hein, parce qu'on avait un peu tous des vies. Et puis quand on s'est rendu compte qu'on passait 8 heures à monter un podcast, quelqu'un avait pas de vie.
Mais c'est pas possible qu'on ait une vie.
Et puis à un moment donné, quand on s'est rendu compte que ça nous bouffait 4 jours et qu'on voyait moins notre famille, on s'est rendu compte qu'il y a deux solutions. C'est soit tu le fais moins, soit tu le fais au moins autant, si voire plus, mais alors il faut que ça remplace une partie de tes revenus, parce que t'as pas envie forcément de passer la journée au boulot, 8 heures, plus 8 heures derrière pour monter un podcast, quoi.
Et puis le temps c'est de l'argent et l'argent c'est du temps, et donc avec de l'argent tu peux te payer des solutions pour accélérer un certain nombre de démarches.
Ouais, et puis tu peux carrément dans une certaine mesure transformer ta passion en métier, ou en tout cas partiellement en métier, et faire ce que tu aimes, quoi. Mais pour ça il faut y mettre les moyens. C'est pour ça que je pense que c'est j'ai plein de fois réfléchi au fait de laisser un petit peu d'avoir deux on avait plusieurs podcasts sur Pomcast, et un des podcasts qu'on avait, qui était Une Pomme, qui était un podcast régulier de news, j'ai pensé plein de fois, j'ai jamais vraiment fait, de le transformer en podcast payant. Je sais pas si ça aurait marché, mais si ça avait pas marché, c'était pas un drame, puisque de toute façon moi je vois plutôt les défaites à l'américaine, c'est-à-dire je les vois pas comme des échecs mais plutôt comme du gain d'expérience. Et puis il faut essayer, il faut pas se baser sur les deux ou trois trolls qui vont dire ah, mais non, nous on veut pas payer, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent jamais payer pour rien de toute façon. Donc
est-ce que vous pensez, alors Jérôme Kainborg de No Watch, qui nous rejoindra peut-être pour le off, dit dans le chat que, mis à part les screencasts machin, du podcasting payant, ça veut forcément dire piratage, c'est-à-dire qu'en gros si tu fais du, par exemple Benoît Marshall, va sûrement se faire pirater, tout déclenche en gold, il y aura quelqu'un qui va faire déclencher.
C'est une donnée du monde dans lequel on vit. Le fait qu'un certain nombre d'industries l'aient pas compris et fassent des crises au lieu de l'intégrer dans leur business model, ça montre juste, à mon avis, qu'ils sont pas encore dans le monde actuel. C'est évident, le piratage, c'est une donnée du problème. Mais tu sais, la réalité, ça, il y a 15 ans, j'avais fait une série de papiers sur le shareware. Je trouve que l'industrie du shareware est très intéressante parce qu'elle est la première, le partagiciel. C'est des softs qu'on télécharge et qu'on paye un petit montant directement à l'auteur. Et c'est une industrie qui est très intéressante parce qu'elle a rencontré tous ces problèmes là très tôt. Et le truc, c'est que la première chose qui évite le piratage, c'est que l'acte d'achat et l'acte de participation soit simple. Et la deuxième chose, effectivement, c'est un petit nombre de mesures, mais tu peux, c'est une donnée du monde actuel que tu auras forcément du piratage. Mais après,
il y a un autre truc qui est aussi le temps.
La plupart des gens sont honnêtes, faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment important. Ouais. Je crois que la plupart d'entre nous, on préfère être honnête si les conditions nous le permettent, plutôt que de pas être honnête. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens, je crois, sont malhonnêtes, c'est soit parce que
c'est trop cher.
Mais t'as des softs, par exemple, ou t'as des produits qui sont piratés, mais objectivement, c'est plus intéressant dans la version piratée, parce que la version non piratée, elle est limitée à plein de trucs. J'ai acheté récemment un DVD avec une édition média numérique et tout ça, qui est même pas compatible sur iPod. C'est plus intéressant de ripper le DVD.
Ouais, mais si t'as acheté le DVD,
oui, en l'occurrence, je l'avais acheté. Mais je veux dire, le truc, c'est complètement idiot de te vendre une édition numérique qui n'est même pas libre.
Non, mais faut pas produit. Acheter des DVD, monsieur. Faut acheter sur iTunes. C'est bon pour mes actions.
Oui, mais en l'occurrence, il fait pas.
je veux rajouter sur un truc que tu disais, qui est important, c'est que d'abord, il faut tabler sur la. Comment dire, sur le fait que les gens soient honnêtes, sur l'honnêteté des gens, d'une part, parce que si tu tables sur les piratages, ça sert à rien. D'autre part, il faut arrêter de courir après de jouer au jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément tomber dans le délire du DRM et tout ça. Je prends l'exemple de Pipcode, je paye $150 par an, ça me donne accès à un site web où je dois me loguer pour downloader les fichiers. Une fois qu'ils sont downloadés et que je les ai en point move, je peux très bien les donner à des tas de gens. De la même façon, je peux aussi acheter des tracks sur iTunes et les donner à des tas de gens. Il n'y a plus de DRM, la seule différence, c'est qu'il y a quand même mon email qui est planqué dans la track. Je le fais pas parce que, pour la simple et bonne raison que, comme tu disais, je pourrais, moi, ma conscience irait pas avec ça, c'est tout, c'est un problème de conscience. Et je pense que c'est aussi un problème d'éducation, et que globalement, à partir du moment où les gens comprendront que voler ce qu'on aime, c'est la plus grande des lâchetés, je cite Akhenaton, il y a un grand truc à comprendre là, quoi. Moi, j'ai vraiment du mal à aller avec le fait que les gens volent ce qu'ils aiment. Donc, typiquement, ils écoutent une chanson, ils aiment l'artiste, ils aiment la musique, et ils le volent. C'est un peu terrible, c'est du viol, en fait, pour moi. Donc voilà, je pense qu'il y a et après il y a aussi probablement un plus à apporter au podcast payant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un truc, tu dois trouver un moyen quelque part d'avoir un plus par rapport à quelqu'un qui typiquement avec un compte sur le site web, par rapport à quelqu'un qui bêtement a eu le podcast par un de ses amis, quoi. Voilà quoi, il y a pas mal de choses à faire techniquement aussi, quoi.
Disons maintenant que le podcast payant a très bien marché, il n'y a pas eu de piratage, magnifique. Des podcasteurs réussissent à en vivre, un peu comme les blogueurs, rien que pour le citer, Presse Citron par exemple.
Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de. Pas de dérive, mais est-ce que. Quels seraient les effets néfastes de l'introduction de l'argent dans le podcasting ? Moi je pense que c'est le mieux pour répondre, c'est Christophe.
Christophe, vas-y, réponds.
Les effets néfastes de l'argent, ça c'est bien une réflexion française, ça.
Bah attends, c'est toi qui le disais alors.
Non, mais forcément. Non, mais je suis français donc voilà.
Après, personne n'est parfait.
Voilà, exactement. Il y a quand même un truc qui est incroyable en France et d'une manière générale dans les pays francophones, c'est ce rapport d'infériorité qu'on a de malaise qu'on a par rapport à l'argent. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Sans argent, on ne fait rien dans notre société. Et la culture de la gratuité qui a été véhiculée sur le net depuis quelques années a un petit peu a amené un peu une distorsion là-dedans. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est juste une question de morale. C'est une morale des gens qui ne vont pas pirater des choses qu'ils aiment, et il y a une question de morale aussi vis-à-vis des gens qui vont recevoir de l'argent pour faire ce qu'ils font actuellement gratuitement. Je pense pas que...
Non, c'est important de dire, excuse-moi, je dis pas que tu me vis spécialement, mais juste être très clair, on fait pas ce qu'on fait actuellement, c'est assez important. Il faut évidemment réfléchir à fournir quelque chose qui soit intéressant et qui soit beaucoup plus je veux dire, tu passes pas simplement, c'est pas une simple truc où tu dis tiens je vais mettre un machin payant, quoi. Il y a toute une réflexion derrière et tu dois réfléchir en te disant quel est le produit que je vais proposer, etc.
Je trouve que ta démarche est tout à fait louable parce que c'est vrai que aujourd'hui faire un podcast c'est du boulot, c'est énormément d'investissement personnel, c'est du temps passé, c'est beaucoup d'énergie investie, et comme tout travail ça mérite salaire quelque part. Et même si tu es très passionné par ce que tu fais, il y a un moment il faut aussi que toi tu en tires un bénéfice.
Oui, mais alors.
La question, c'est qu'est-ce qu'il y aurait de mal en final, hein,
Qu'est-ce qu'il y aurait de mal? C'est effectivement, aujourd'hui, on voit ce qui se passe, l'ambiance délétère qu'il y a entre les blogueurs, parce que tout le monde est là à. À faire sa pute pour essayer de grappiller. Des billets payants, des billets sponsorisés à droite et à gauche, et si je peux faire un croche-patte au copain au passage pour récupérer ce qui normalement aurait dû être sur son blog, je le fais. C'est clair qu'on sera pas à l'abri de ce genre de choses quand il y aura du fric dans le podcast.
Mais encore une fois là, je me demande, enfin je sais pas, je ne ce que je vois dans l'espace de la photo, c'est qu'on est plusieurs sites en finale chercher les mêmes revenus publicitaires, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Je crois qu'après c'est pas, enfin je veux pas juger négativement, je veux pas donner l'impression que je juge négativement certaines personnes parce qu'il y a sans doute un historique derrière, mais c'est pas la seule issue, je veux dire. Moi je vois qu'en photo on collabore même entre personnes qui par ailleurs nous sommes parfois pas en conflit mais en compétition pour certains budgets publicitaires. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres actes de collaboration. Je crois que derrière, il y a aussi une question de comment on le vit, comment on l'aborde, comment on construit son business.
Oui, et puis moi j'ai envie de dire que il y aura sans doute de la place pour pas mal de gens. Donc voilà, il n'y aura pas un seul budget publicitaire ou de budget de sponsoring à se partager entre 50 000 podcasteurs.
Et encore une fois, il n'y a pas que la publicité.
Exactement, il y a
le sponsoring.
Voilà,
moi, peut-être que maintenant c'est l'occasion d'en parler, mais moi, ce que je considère comme étant probablement l'une des meilleures façons de gagner de l'argent avec le podcasting, c'est la façon de la gagner indirectement. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre, j'ai mis plusieurs années avant de comprendre que la force de Pomcast, c'était pas tellement les X euros que je ramassais avec Trade Doubler ou à une époque avec Podemus ou autre. Même si je reprécise, les quelques mois avec Podemus, j'étais un peu sur un nuage. Ça aurait été sympa si l'expérience aurait pu continuer. Bon, ça s'est pas fait malheureusement. Mais au final, ce qui m'a surtout fait gagner de l'argent, c'est le côté indirect. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'étais personne et puis je suis devenu une espèce de pseudo-personnalité sur Internet. Enfin, quelqu'un d'un tout petit peu connu, ce qui m'a fait augmenter mon carnet d'adresses, mais à la puissance 6000. Connaître plein de gens, gagner des contacts pour, à un moment donné, quand j'ai enfin franchi le pas de devenir développeur Mac et iPhone, et d'ailleurs paradoxal, c'est depuis que je suis développeur Mac que j'ai arrêté de faire du podcasting pour le Mac, mais bon, soit.
Mais c'est pas du tout paradoxal en fait.
C'est juste parce que je travaille. Absolument, apparemment, quand j'étais développeur .NET, j'avais rien à faire apparemment.
Absolument pas pour juger négativement ta démarche, hein, stuff, donc ne le prends pas mal. Mais le risque, et c'est une question que je me suis posée en fait, c'est pour ça que je me permets de réagir dessus. Le risque de partir sur un business indirect, c'est que forcément, ça veut dire que si le business indirect fonctionne, tu vas avoir l'envie d'abandonner ton activité première. Et donc je me suis pas mal posé la question.
Bah, oui et non.
Je me suis dit oui, mais attention, parce que si tu le dis toi-même, tu podcastes plus.
On va peut-être revenir sur une dernière question parce que là on en est à quasiment 2 heures d'émission. C'est Pof qui a posé cette question dans le clavardage. Il demande est-ce que l'arrivée du podcasting payant, est-ce que ce serait une bonne opportunité afin de vendre des screencasts, enfin des cours, des tutos via les flux de podcast classiques?
Non, mais il n'y a pas besoin de faire ça par des via de podcast classique.
Oui, mais ça permettrait une plus grande médiatisation.
Vous pouvez faire ça par un site web avec. Il faut un peu de techno derrière, il faut un peu de technologie. Avec.
Micast, qui te permet de le faire sans se rendre techno. Hein.
Voilà, ouais, il y a probablement des trucs tout faits. Moi, je suis développeur.
Micast est une plateforme toute faite de screencast.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. Donc, ouais, il y a. De toute façon, il y a moyen de vendre du contenu, mais bon, il faut que ce soit de qualité aussi. Et le truc, c'est, on parlait de qualité avec le gratuit, alors quand tu décides de faire payer, là, il faut qualité x10, voire x100, parce que là, c'est sûr.
Pour moi, un élément de réflexion sur le screencast, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener en se disant, est-ce que je sors un screencast une fois sur un sujet ? Auquel cas, une plateforme comme Wecast est très intéressante. Ou est-ce que si c'est quelque chose que je veux faire de façon régulière, et c'est dans ce cadre-là que ça vaut peut-être la peine, comme tu disais, Stuff, de se dire je vais faire ma plateforme en XML, etc. C'est une question de branding, en fait. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de régulier, enfin, moi, c'est ma logique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de régulier, ça vaut la peine d'avoir notre propre plateforme, parce que si Wecast pose un problème ou paye moins bien ou quelque chose comme ça, on n'est pas dépendant quelque part.
Ouais, c'est clair. Oui, le MEB.
Pour terminer l'émission, parce que voilà.
Je vais juste terminer rapidement ce que je
podcast en direct,
disais tout à l'heure quand j'étais coupé en fait. C'est que j'espère qu'à un moment donné je referai du podcasting. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas officiellement enterré Pomcast, même s'il est à moitié dans la tombe. Mais j'ai jamais vraiment eu envie de le terminer parce que je pense qu'à un moment donné j'aurai et l'envie et surtout j'espère le temps de refaire du podcasting. Là, pendant un certain temps, pendant même très longtemps, j'avais pas forcément envie ni le besoin de le faire. Là, dernièrement, j'ai re-envie, mais j'ai juste pas le temps du tout. Mais ce que je voulais dire par rapport au modèle indirect, c'est que là, moi, ça m'a pris tout mon temps parce que j'étais le seul et unique développeur et que j'ai décidé de faire D'abord, j'ai eu entre autres un certain scrupule par rapport au fait de gagner de l'argent, un peu à la française, même si je suis pas français. Et donc j'ai décidé de vouloir plutôt monter une agence, plutôt dans l'esprit de vraiment monter une équipe, tout ça. Finalement, c'était pas vraiment, c'était un peu chaud. Et j'en suis revenu à bêtement faire du travailler avec différentes personnes et faire un peu sur base de commission. Et mon but à moi, clairement, c'est pas de continuer à développer toute la vie, parce qu'en fait j'ai juste pas le temps. J'ai plein, pas mal de demandes qui m'arrivent et de devis qu'on fait, entre autres grâce à podcast.com à la base, parce que c'est de là que la majorité que c'est parti en boule de neige. Et donc moi j'aimerais bien à un moment donné arrêter d'être moi le simple développeur. Pour ça, le problème, c'est qu'il faut générer un peu de cash, il faut avoir un peu de cash flow, et pour l'instant c'est pas faisable tout de suite, mais j'espère à terme de pouvoir le faire. Et puis le but après, ce sera du coup de bêtement faire mon podcast avec un sujet de prédilection qui est entre autres éventuellement l'univers Mac, mais d'autres trucs, et d'être moi-même mon propre sponsor, c'est-à-dire de indirectement dire aux gens, au fait, si vous avez besoin de développement iPhone ou Ruby, bah on est là, quoi.
Ok, pour
mais
terminer,
attends, moi si je peux en caser une là par rapport à l'histoire du modèle économique,
ouais.
S'il y a de l'argent qui débarque dans le podcasting, très bien, mais à mon avis, enfin, faut pas voir ça comme une fatalité. Moi, je salue l'initiative de Benoît, et si ça marche, je serai le premier à applaudir autant que je peux. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'espace pour moi, en tout cas, encore une fois, hein, je parle de ce qui fonctionne, en tout cas qui m'apporte beaucoup de satisfaction avec la chaîne guitare. J'y mets un certain temps, et le salaire que je récupère, que ça soit sous forme d'interaction avec la communauté des guitaristes, les superstars de la guitare que j'ai rencontrés, les concerts auxquels je vais, etc., finalement c'est un modèle économique en soi qui tient la route. Ça, c'est une première chose. Mais ceci dit, ça n'exclut pas que si demain, au lieu de, je sais pas, grosso modo entre 500 et 1000 auditeurs en ce moment, je passe à 10 000, voire mettons 100 000, et que je me dis, ah bah tiens, si j'ai un taux de conversion de 5%, et puis que sur les 10 000 ou sur les 100 000, il y en a 5 000 qui seraient prêts à me payer un abonnement, là il y aura peut-être une faisabilité économique et je pourrais me poser la question. Maintenant, je pense que c'était la démarche aussi de Benoît, pour arriver aux 10 000 en question, puis pour essayer après de tabler sur un taux de conversion, faut aussi la machine marche à l'envers. Il faut mettre de l'argent au début et non pas, ouais, non pas le contraire, quoi.
Et puis il faut se constituer un public. Moi, si demain je décidais de faire Pomcast payant, ça marcherait juste pas, parce qu'il reste trois personnes qui écoutent.
Et puis attends, il y a un truc qui faut dire, Pierre, le raisonnement est pas pris dans le bon sens. Okay. C'est-à-dire que c'est plus, et je te souhaite que ça t'arrive un moment, parce que c'est un moment excitant. C'est le moment où tu as des contacts, des opportunités de réaliser des émissions, etc., et où tu te dis, je peux pas le faire parce que cette émission-là, je dois aller passer deux jours en déplacement, prendre un train, un avion, un machin, un truc, et là j'arrête. Bon, tu le laisses passer une fois, tu le laisses passer deux fois, tu le laisses passer quatre fois, et puis tu discutes avec des gens, et tu as des gens qui disent, mais oui, si tu pouvais faire ce genre de truc, évidemment, on serait intéressé. Et voilà, quoi. C'est-à-dire que c'est pas se dire nécessairement, tiens, je suis à un taux qui me permet de faire un taux de conversion. C'est aussi se dire, et c'est surtout se dire, tiens, mais il y a moyen de faire des choses plus intéressantes si on change un petit peu notre réflexion.
Ouais, non, je comprends. Et puis avoir ce moteur de développement. Je me rappelle très bien quand tu m'en avais parlé il y a quelques temps, et la démarche tient tout à fait la route. À un moment, toute personne qui a fait un MBA connaît le truc, quoi. Hein. Il faut de l'argent pour lancer une affaire, quoi. Et puis ça démarre pas tout seul. Tu peux aller jusqu'à un certain moment en faisant du bénévolat ou en prenant sur ton temps personnel. À un moment, si tu veux accompagner la croissance que tu as pour employer des termes économiques, bon, faut que.
Non, mais l'argent, tu peux la faire doucement aussi. T'es pas obligé d'avoir dès le départ 50 000 dollars.
Il y a un moment, il faut que tu fasses un choix, quoi. Je veux dire, c'est.
Il y a un moment où il faut que tu fasses un choix entre t'investir plus dans ton podcast ou pas, si tu veux en faire un truc un peu plus gros, c'est sûr.
Ouais,
moi, je prends un exemple. Mon exemple à moi tout con, c'est qu'en 2005, et pourtant ça faisait pas longtemps que le podcast était démarré. Bon, j'avais aussi l'excuse que ma première fille allait naître, donc j'ai décidé de tout laisser tomber et de me mettre à fond dans le podcasting. Tout 2006, j'ai fait que du podcasting. Je vais pas vous cacher que j'ai pas vraiment gagné la même chose qu'en informatique, mais c'est bon, je survivais, je mangeais et globalement je payais le loyer, donc c'était déjà pas dégueulasse. Et puis indirectement, ça m'a permis de vivre des trucs assez sympas, puisque le vivre à fond pendant un an, c'est vraiment sympa. Et puis de partir en janvier 2007 à la Macworld à San Francisco, et une fois de plus, je veux pas faire le fanboy, mais je vais encore citer Steve Jobs, qui dit un truc du genre tu peux juste connecter les points de ta vie en regardant en arrière, et tu te rends compte quelques années après que je serais pas développeur iPhone aujourd'hui si j'étais pas allé à la Macworld en 2007. Et je serais pas allé à la Macworld en 2007 s'il y avait pas des mecs qui avaient vu un de mes podcasts vidéo et qui avaient apprécié et qui m'avaient fait voler jusque là-bas, quoi, en gros.
Non, tout à fait. Moi ce que je veux juste ajouter, quoi, aussi par rapport à ça, c'est que
il
y a un vrai marché pour le podcast. Peut-être je vais en faire bondir certains là, mais indépendant dans le sens, enfin, il y a aussi une certaine fraîcheur, un certain amateurisme dans le bon sens du terme, quoi. Quelque chose qui va être super pro, super clean, bon bah ça devient un peu super froid, et puis là on rentre plus dans un format média traditionnel, hein, et moi je sais que le feedback, encore une fois, qui remonte des gens qui écoutent la chaîne guitare, c'est parce que bah, je parle de la guitare de manière passionnée, de manière simple, etc. C'est ça qui les fait triper, quoi. Voilà.
Le mot de la fin, qu'est-ce que vous attendez du podcast dans le futur en une phrase, Pierre?
Une phrase?
Oui, enfin bon.
Oula, qu'est-ce que j'attends du podcast dans le futur? C'est dur ça. Écoute, je vais parler de la chaîne guitare parce que c'est ça qui me fait triper en ce moment. Moi, c'est de continuer de bien m'éclater avec ça et puis de rencontrer tout plein de gens passionnants autour de la guitare. Voilà.
Stuff.
Moi je suis assez fan de ce qui se passe au niveau cross-média. Au fil des années, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup à apprendre des pros et que les pros avaient beaucoup à apprendre de nous. Et que donc c'est sympa d'aller dire aux gens des grosses radios, des grosses télés, vous avez vu, il y a un truc, ça s'appelle Internet. Et inversement, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et puis sinon, moi personnellement, pour mon petit être en moi-même, j'espère refaire un petit peu réutiliser un petit peu plus ma voix que même sur un clavier dans les mois ou dans les années à venir, parce qu'au final c'est quand même rigolo, quoi. En fait, c'est quand même sympa de parler et j'y arrive assez bien, en fait, à parler, surtout tout seul.
Christophe.
J'attends qu'on continue à s'amuser en faisant ce qui nous plaît. Et puis, si possible, qu'on arrive à vivre de notre passion. Voilà, c'est ce que je souhaite pour l'avenir et pour l'avenir de nos Watch.
Ok, Bertrand.
Moi, j'en attends rien du tout. Bon, pas grand-chose de particulier. Comme ça, je risque pas d'être déçu.
D'accord. Benoît.
Sincèrement, moi je fais du podcast aujourd'hui pour le pur plaisir d'en faire et j'ai pas du tout d'objectif, quel qu'il soit, avec ça. C'est simplement le fait de me faire plaisir. Et puis après, je sais par expérience que ça peut produire des résultats parfois complètement inattendus. Si ça vient, c'est tant mieux. Si ça vient pas, de toute façon, ça sera un plaisir de le faire.
Benoît, pour terminer.
Moi je crois que le podcast, c'est jamais qu'un moyen de diffusion et de distribution. C'est-à-dire que pour moi, le podcast, c'est l'élément technique. Et ce que j'espère, c'est que cet élément technique, et ça, c'est de plus en plus le cas, c'est ça qui est réjouissant, mais j'espère que ça va continuer à se développer, c'est qu'il va être pris en main, utilisé pour faire des choses intéressantes. Je parlais tout à l'heure de Léo Laporte. Aux États-Unis, moi je suis vraiment admiratif devant ce genre de choses où on est d'accord qu'il y avait des contacts ou machin, mais partant d'un nouveau moyen de diffusion technique, il a vraiment créé un média qui a du sens, qui est intéressant et qui vaut la peine d'écouter. Mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On a parlé de Revolution Tree, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et que ça va donner plein de médias intéressants.
Merci à vous invités, merci à tous de nous avoir suivis dans le chat, vous étiez 35. Merci à tous auditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Vous pouvez retrouver ce podcast sur podradio.fr, vous pouvez le retrouver sur deconcast.fr, vous pouvez aussi le retrouver sur iTunes. De toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour un autre débat d'octet sur un sujet aussi casse-gueule, c'est la musique. On vous dit au revoir. Salut.